Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur, meilleure investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi tous les jours, vous le savez, mais aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. Nous sommes mardi 26 mars. Le programme du jour, d'abord, nous allons parler du retour des introductions en bourse. Elles sont plutôt nombreuses côté États-Unis, mais aussi côté Europe, pas vraiment encore du côté de chez nous en France. On va faire le point sur les IPO de la semaine dernière, Astera Labs, Reddit, mais aussi Galderma. Et puis on se dira que pour les particuliers, attention, prudence. Avec Christian Fontaine du Revenu, on se demandera ce que signifie un bon contrat d'assurance vie. Ce sera dans un petit quart d'heure. À 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose. On parlera du déficit public. Côté bourse, Antoine est en train de se connecter depuis Euronext, ainsi que nos deux traders pour suivre la séance du jour du côté du CAC 40. On vous coach si vous venez toucher une grosse somme d'argent. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? C'est notre gestionnaire de patrimoine du jour, Bastien Baron, qui vous donnera ses bons conseils. Vous voulez investir, mais vous avez peur des galères locatives. Vous voulez vendre, mais rester propriétaire. Stéphane Descartiers a les solutions à vos problèmes. Et si vous étiez votre propre locataire, votre propre acheteur? Ce sera dans le rendez-vous IMO, comme tous les jours, vers 11h15. Et puis, on investira dans ce qu'on appelle les meme coins. Vous savez, ces crypto-monnaies avec des chiens dessus, par exemple. Et bien, en parallèle des cryptos, ces meme coins sont les grands gagnants de l'excitation récente au sein du marché. On va faire un focus sur ces jetons, ce qu'il faut surveiller en 2024 avec Enzo Allo de Crypto Patrimoine. Puis au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre. Merci pour votre écoute et puis vos messages. Vous continuez à nous écrire sur LinkedIn, en message privé, mais aussi par email, comme Mathieu qui veut des conseils pour investir dans l'IA via son PEA. Nous vous répondrons, Mathieu, vers 11h30 avec Christian Fontaine. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr. On part du côté d'Euronext, rejoindre Antoine. Cher Antoine, notre CAC 40 qui est un petit peu, comment dire, entre deux eaux ce matin.
Oui, effectivement, il n'y a pas trop de tendance. Alors, légère baisse là en ce moment, moins 0,13%. On redescend à 8140 points. L'Eurostox 50 quasi inchangé, moins 0,02%. Tendance un petit peu plus positive du côté de Francfort qui gagne 0,1% sur l'indice DAX. Mais on est toujours dans ce temps suspendu juste avant le week-end de Pâques. Un petit peu de pression géopolitique et globalement des investisseurs qui ne veulent pas prendre trop de risques. On voit qu'il y a quand même un tout petit peu de volatilité, qu'il y a quelques pics, notamment en avant-marché. Mais globalement, il n'y a pas de grande direction. Alors à noter qu'il y a pas mal de valeurs qui bougent beaucoup ce matin, notamment le secteur bancaire avec BNP Paribas en tête qui gagne 1,9% à 63,68 €. Là c'est Goldman Sachs qui a relevé sa recommandation à achat sur le titre BNP Paribas, mais on a l'ensemble du secteur qui suit, hein, Société Générale plus 0,8, on était à 24,25, on a Crédit Agricole plus 0,79% à 13,50 €. Et puis à noter qu'LVMH a bénéficié d'une bonne recommandation de Barclays, hein, qui a relevé sa recommandation a surpondéré sur la valeur, mais le titre est repassé en baisse alors qu'il avait attaqué en hausse, moins 0,74%. Parmi les titres en repli, à noter Stellantis aussi qui recule d'1,2% à 26,85 €. On a Carrefour, la baisse assez sévère, moins 3,2% à 15,48 €. ArcelorMittal, moins 0,97 €, 24,96 €. On a beaucoup parlé d'Atos évidemment et ses milliards d'euros de pertes, le début de négociation pour renégocier la dette. Le titre qui est un habitué au très fort mouvement boursier, là évidemment est sanctionné ce matin, mais on peut parler quand même de baisse modérée, on va dire. Il perd 6,6% à 1,60 €. À noter la forte baisse d'Orpea qui baisse de 6% aussi à 11,06 €. On a également une forte hausse sur le SBF 120. Là, il faut aller chercher en tête de l'indice large. C'est Ruby qui gagne 6% à 29,80 €, avec Bolloré qui a dépassé le seuil des 5% du capital après une déclaration à l'AMF faite hier soir après la clôture. Donc le titre en profite bien ce matin. Le CAC, donc, moins 0,1%. On est à 8143 points. L'euro 1,0850 €. Les prix du pétrole toujours un petit peu tendu à 86$ pour le baril de Brent de mer du Nord. Et l'once d'or fin sur de nouveaux records historiques. On est à 2178 là en ce moment sur l'once.
Merci Antoine. On vous retrouve dans une heure. Vous nous emmènerez du côté de Londres. Londres qui se lance aussi dans les produits financiers indexés sur le Bitcoin. À tout à l'heure. Pour l'heure, on fait le point sur les actualités patrimoniales, financières que vous devez maîtriser pour être meilleur investisseur.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Jean-Louis Dallaro. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes dans le reste de la journée, rédacteur en chef adjoint du site bfmbusiness.com et vous êtes très, très occupé depuis 7h30 ce matin à analyser le déficit public.
Bah oui, parce que les chiffres sont tombés ce matin et ils sont très mauvais. On s'y attendait un petit peu. Donc 5,5% du PIB en déficit public. Pour rappel, on était à 4,8% l'année dernière. On est tout simplement l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne. Mais plutôt que de parler d'un ratio sur PIB qui n'a pas forcément énormément de sens, à part pour se comparer de pays à pays, il faut savoir ce que ça veut dire en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Là, on parle de 150 milliards d'euros pour 2023, toujours selon l'INSEE. Donc dans les ordres de grandeur, moi j'ai regardé, ça représente par exemple deux fois plus que ce que rapporte l'impôt sur les sociétés. C'est une fois et demie les recettes de l'impôt sur le revenu ou encore les trois quarts de ce que rapporte la TVA qui est la plus grosse taxe, le plus gros impôt en France. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter pour son épargne? Ben oui, clairement sur le côté fiscalité. Tant que les taux étaient bas, voire négatifs, un tel déficit en réalité ça posait pas tellement de problèmes. Mais la hausse des taux de change, ça a changé la donne. Et il va falloir soit couper dans les dépenses, soit alourdir les impôts, notamment sur l'épargne. On ira probablement vers un mix des deux au cours des prochains mois. Mais il faut savoir qu'historiquement, on augmente beaucoup plus facilement les impôts en France qu'on ne baisse les dépenses.
Voilà, mode d'emploi du déficit public français. On va parler, est-ce que c'est une bonne nouvelle, du retour des introductions en bourse?
Bah oui, ça se réveille un petit peu, hein. Et notamment la semaine dernière, il y a eu de belles introductions en bourse. Astera Labs, Reddit, Galderma, qui ont plutôt bien performé sur leur premier jour. Les introductions en bourse, hein, refont parler d'elles, que ce soit aux États-Unis comme en Europe. Les marchés financiers l'espéraient depuis plusieurs mois, hein, parce que l'année 2023 avait été très très pauvre sur ce plan-là. Oui. Pour l'instant, sur le vieux continent, ça se passe plutôt bien. Entre le 1er janvier et la mi-mars, les IPO, comme on dit, ont permis de lever 3,2 milliards d'euros Ce sont les données du London Stock Exchange Group. C'est le meilleur démarrage, tout simplement, depuis 2021 en Europe, qui a été une année record. Alors, si on ne regarde pas l'ensemble de l'Europe, mais on se concentre sur la France, là, c'est un petit peu moins dynamique. On a eu en février Pluxy, hein, vous savez, la filiale du titre restaurant de Sodexo qui a fait son entrée en bourse. Mais Renault a jeté l'éponge sur Ampère, sa filiale électrique. Les plus gros morceaux à venir sont aussi des scissions, hein. C'est Vivendi qui devrait scinder en quatre groupes et Sanofi qui devrait coter à part sa filiale Santé Grand Public. Alors, est-ce que ça vaut le coup de miser sur les intros en bourse? Pas vraiment, généralement. Hein. S'il y a un ETF qui traque les performances des sociétés introduites depuis moins de 3 ans aux États-Unis, c'est un exemple parmi d'autres, hein, le Renaissance IPO ETF. Eh bien, si on regarde sur 3 ans, l'ETF il a reculé de 34%, alors que le S&P 500, lui, il progressait de 40%.
Bon, voilà.
Donc pas terrible.
Dynamique à suivre peut-être. Un mot du Bitcoin qui est ressorti de sa zone de correction, là, qui titille les 70 000 $ à l'approche du halving, dont on reparlera avec Amaury de Tonquédec, et Cathy Wood, hein, notre oracle un peu du Bitcoin, qui place la barre très très haut sur le Bitcoin. Racontez-nous.
Ouais, très très haut. Hein. C'est la papesse de la tech américaine, hein. Cathy Wood. Elle voit le Bitcoin tout simplement à 3,8 millions de dollars. Alors, pour rappel, moi j'ai regardé ce matin, tout à l'heure, on était autour de 70 700 $.
Oui.
Alors, pour quelles raisons fait-elle de telles prévisions? Elle estime que, vous savez, les fameux ETF Bitcoin Spot qui ont été autorisés en janvier dernier et ont connu quand même un immense succès, vont continuer de se développer, même s'il y a eu un petit coup de mou là, ces dernières semaines. Mais ça va faire monter les cours à terme dans les prochains mois. Mais ça, Cathy Wood, elle explique que c'est si les grands gestionnaires d'actifs investissent 5% de leur portefeuille en Bitcoin, le Bitcoin pourrait aller vers les 3,8 millions de dollars. Ça paraît quand même très optimiste que 5% des fonds des gestionnaires d'actifs soient en Bitcoin. Et puis, il y a le fameux halving qui arrive. Hein, c'est la récompense en Bitcoin pour les mineurs qui valident les transactions sur la blockchain. Et ça va être divisé par deux, ces récompenses. Donc, a priori, autour du 19 avril. Et il y a ainsi moins de nouveaux Bitcoins mis en circulation. Et généralement, historiquement, ça se traduit par une hausse des cours.
Voilà ce qu'on pouvait retenir ce matin dans l'actualité patrimoniale. Merci Jean-Louis, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes avec Christian Fontaine du Revenu. Nous allons parler de ce que c'est qu'un bon contrat d'assurance vie. Voilà. On va faire le portrait du contrat parfait. Oui. Ce sera dans quelques minutes, mais d'abord, on passe une tête chez nos traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Nos traders ce matin, ce sont Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Et puis Gilles Santacreux et ses algos du site boursicoté.com. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles, on va commencer avec vous. On s'ennuie un petit peu, non ?
Bah oui, puisque ça fait depuis le 14 mars hein, que l'on est dans ce range d'évolution totalement horizontal. Donc on était venu, on a une zone d'équilibre autour des 8145 points. On a une zone supérieure de range à 8215 points. On a tenté une cassure sur gap haussier de cette zone, mais finalement on a vite réintégré ce range. Hier, on a tenté une cassure par le bas et puis finalement en clôture, on est revenu. Donc clairement, c'est totalement neutralisé. Alors lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'évolution des volumes, on avait plus de volume sur la dynamique haussière qui a précédé justement cette phase de range que ce que nous avons actuellement, ce qui nous indique que nous sommes dans une phase de consolidation dite horizontale. On a le luxe qui peine, hein. On a le luxe qui est dans le rouge depuis qu'on est dans cette phase de consolidation, là où d'autres indices continuent à monter un petit peu. Et globalement, c'est ce qui plombe un peu l'indice. On a le secteur bancaire qui performe un petit peu aujourd'hui, donc sous l'impulsion de BNP Paribas. Mais globalement, on n'arrive pas à se sortir de cette zone horizontale. Et c'est un petit peu, j'irais, les news fortes qui pourraient éventuellement donner un petit peu plus de signal directionnel. Au niveau de mes algos, on privilégie une petite poursuite du mouvement haussier avant un retour d'une phase de consolidation. Donc là aussi, c'est assez peu directionnel. Finalement, c'est ça, ça nous fait un biais neutre sur une semaine ou deux. Et clairement, les niveaux que l'on peut observer, donc c'est cette zone d'équilibre, 8145 points que l'on peut observer. On reste en tendance haussière tant que le CAC 40 reste globalement au-dessus des 7975 points. Et on a des signaux de retournement à 7915 points. Donc globalement, tant que l'on est dans cette phase horizontale, en absence de flux, on n'a pas de consolidation qui nous amène à un mouvement baissier, on peut continuer à regarder vers le haut. Je rappelle le record à 8218 points. Si on cassait la zone des 8215, eh bien on pourrait reprendre une dynamique haussière forte et inscrire de nouveau plus haut. Donc pour l'instant, c'est le statu quo. On a des news, des statistiques majeures en fin de semaine. On aura le PIB américain jeudi et le PCE Core vendredi. C'est peut-être par là que viendra la reprise de la volatilité.
Bon, en attendant le PIB et le PCE en fin de semaine, Alexandre, on continue à s'ennuyer aussi chez vous ?
Oui, parce que si vous voulez, ce qui est assez étonnant, c'est que le CAC 40, qui avait surperformé une partie des indices non seulement américains mais aussi européens pendant quelques temps, désormais les sous-performe un petit peu. En fait, ces derniers jours, le DAX a mieux fait, par exemple, le voisin allemand a mieux fait en bourse que le CAC 40. On voit qu'il y a une thématique quand même qui pèse un peu sur le CAC depuis quelques jours. C'est le thème du luxe, c'est Kering en fait, hein, qui par ses résultats plombe un peu tout le secteur, alors même que les autres type LVMH ou Hermès étaient vraiment sous des tendances très fortement haussières, parce que Kering fait sortir les doutes qu'on peut avoir sur la Chine. Alors moi, j'ai pas les doutes, si vous voulez, absolument fondamentaux sur la Chine. Je pense qu'il y a encore des zones d'incertitude, mais on a quand même l'impression que le plus dur a été vu sur la partie immobilière ou autre. Donc j'ai pas de crainte fondamentale, et c'est ce que j'exprime avec vous régulièrement. Moi, je pense que le CAC va aller beaucoup plus haut à moyen terme. Simplement à court terme, il y a deux facteurs effectivement qui me retiennent un peu, qui font que l'analyse que je vous propose aujourd'hui était presque la même qu'il y a 15 jours en fait. Le CAC, ça fait 15 jours qu'on le retrouve au même endroit, parce que je pense que si ça corrige un peu en Europe et sur le CAC 40, c'est pas quelque chose qui viendra de l'Europe en fait. Je pense que c'est plutôt outre-Atlantique qu'il faut regarder, même s'il y a de la résilience en Europe ces derniers temps, où il y a eu par rapport au marché américain notamment. On voit qu'aux États-Unis, c'est reparti de plus belle. Et c'est reparti de plus belle à cause de quoi, ou en raison de quoi? C'est Jérôme Powell la semaine dernière. Jérôme Powell qui, alors que les données d'inflation montrent une forme de résilience depuis le début de l'année, et que vous avez des indices de prix, des composantes de prix en fait, hein, dans les indices d'activité type PMI par exemple, services ou manufacturier outre-Atlantique, les composantes de prix sont retendues ces dernières semaines. Eh bien, au lieu d'avoir un discours qui est un peu data dépendant et qui dit, eh bien, on verra en fonction des prochaines données pour les baisses de taux, il indique qu'il est confiant par rapport à la trajectoire de l'inflation. Donc, tant mieux, effectivement, s'il est vraiment confiant. Mais d'un point de vue marché, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça aiguise l'appétit pour les actifs risqués et ça écrase un peu plus la volatilité, alors même que les marchés américains ont rallié de plus de 30% pour le Nasdaq en 5 mois et 27-28% pour le S&P en 5 mois. Et je trouve que cette régularité de hausse sans aucune respiration un peu importante sur les marchés américains n'est pas forcément très saine dans un environnement où on voit même qu'au sein de la Fed également vous avez des dissensions qui semblent assez fortes entre Jérôme Powell et une partie du board qui pense qu'il y a de la place pour 3 baisses de taux et puis certains membres comme Raphaël Bostic hier nous explique de manière très claire que pour lui ce sera une seule baisse de taux cette année et les données d'inflation, les dernières en tout cas, montrent que les 3 baisses de taux sont pas forcément garanties. Donc moi je m'attends si vous voulez à monnaie de la volatilité qui repart un peu sur les US, pas un crack, pas un truc délirant, mais un peu de volatilité où on reviendrait vers un VIX vers 15, 20, voire un peu au-delà de 20. Et je pense que c'est ça qui pourra amener une petite soupape de respiration sur le CAC, qui peut le ramener vers les 8000, voire un peu en dessous de 8000. Je dirais la zone 7008-8000 me semblerait assez logique si les marchés américains venaient à corriger. Donc voilà à peu près le scénario pour l'instant. Encore une fois, si on vise à long terme, on ne touche rien. Je pense qu'on peut rester haussier sur tous les indices européens, il n'y a pas trop de soucis. Si par contre, on cherche éventuellement des points pour racheter du CAC un petit peu plus bas à un moment donné, je pense que le coup de tonnerre, le titre orage viendra surtout de la partie américaine qui influencera du coup la partie européenne.
Merci beaucoup Alexandre Baradej de chez IG et Gilles Santacreux pour votre perspective sur cette semaine. Et puis voilà, en attendant vendredi, le PIB, le PCE et puis Jérôme Powell aussi, qui malgré le jour férié, prendra la parole vendredi. On vous retrouve plus tard, messieurs. Merci beaucoup. Comme tous les mardis, dans quelques minutes, nous ferons le point sur le CAC mid et small, sur les petites et moyennes valeurs avec Eric Lewin. Mais avant ça, on continue à refaire l'actu économique patrimoniale avec nos invités.
Tout pour investir. Tout pour votre argent.
Jean-Louis Delorot est resté parmi nous. Rebonjour Jean-Louis.
Rebonjour Lorraine, rebonjour à tous.
De BFMBusiness.com. Et puis, c'est mardi, Christian Fontaine du Revenu est parmi nous. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Parmi nous pour décerner des médailles. En tout cas, pour essayer de faire le portrait du meilleur contrat d'assurance vie possible. Qui est-il ?
Alors cette semaine, effectivement, au Revenu, c'était un peu notre festival de Cannes puisque nous avons décerné les prix aux meilleurs contrats d'assurance vie, ce que nous faisons depuis maintenant 1978. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Alors qu'est-ce que c'est un bon contrat d'assurance vie? Ben, un bon contrat d'assurance vie, c'est un contrat qui répond à vos besoins d'épargnants. Donc c'est bien sûr, pour certains, ça va être un contrat, je dirais, très dynamique. Pour d'autres, un contrat plutôt avec un niveau de risque relativement limité. Alors au Revenu, on aime bien récompenser les contrats par réseau de distribution parce qu'à chaque type de réseau de distribution correspond une clientèle cible. Donc si vous recherchez avant tout dans un contrat d'assurance vie un placement sans risque, vous savez c'est le fameux fonds en euros spécificité franco-française. Si vous cherchez un contrat d'assurance vie qui a été rentable l'année dernière mais surtout qui sera rentable dans les années à venir, il vous faut un contrat qui sera certainement proposé par une mutuelle d'assurance avec ce qu'on appelle un petit peu un taux naturel, c'est-à-dire un taux qui correspond à la rentabilité des actifs sous-jacents, pas un taux dopé pour attirer les chasseurs de primes. Suivez mon regard. Alors, ça, c'est pour si vous souhaitez surtout un contrat peu risqué. Après ça, vous pouvez aussi souhaiter, notamment si vous êtes, je dirais, fidèle de votre émission Lorraine, un contrat plus dynamique, un contrat peu chargé en frais, un contrat qui vous permette d'exposer votre épargne aux marchés internationaux qui proposent des ETF, ces fameux fonds indiciels cotés en bourse qui vont être gérés par les plus grands, donc leurs gérants mondiaux, les BlackRock, la Amundi, les Vanguard. Ça, dirigez-vous plutôt vers un contrat proposé en ligne, 100% en ligne. Et puis, il y a une autre catégorie de contrats que vous aimez beaucoup et qu'on aime aussi beaucoup au Revenu, c'est tous ceux qui permettent d'investir en direct en bourse. Votre PEA est plein. Pour des raisons diverses et variées, vous n'avez pas envie donc alors, de payer 30% d'impôt sur vos gains boursiers en investissant via un compte-titre ordinaire. Et bien, la solution, c'est investir en bourse via le contrat d'assurance-vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les contrats d'assurance-vie modernes permettent d'investir dans du Nvidia, du Apple, donc alors, de la BNP, de Soggen, et j'en passe. Et donc, voilà, ça, c'est une autre catégorie. Et je dirais terminer très rapidement en disant, bah, bien sûr que les auditeurs qui nous écoutent, les investisseurs, investisseuses, ils se disent, à la fois, ce sont parfois, pour certaines parties de leur épargne, des investisseurs très prudents, puis pour d'autres, des investisseurs dynamiques. Bah, donc là, la solution, vous l'avez, c'est qu'il vous faut plusieurs contrats, plusieurs poches fiscales. Et le gros avantage, c'est que sur le plan fiscal, c'est qu'à la fin de l'année, toutes les classes d'actifs n'auront sans doute pas progressé de la même façon. Et donc, s'il y a certaines classes d'actifs qui ont baissé, vous aurez certains contrats en perte. Et si vous avez besoin d'argent pour compléter vos revenus, ben vous puiserez dans ces contrats. Ça vous évitera de passer par la case impôts et prélèvements sociaux.
Jean-Louis.
Bah, pour compléter un peu ce que dit Christian, moi, je pense qu'il faut bien regarder aussi les choix de placement que vous allez avoir en unité de compte. Voilà, est-ce que vous avez accès à beaucoup de fonds différents? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez envie de faire en termes de thématiques, en termes de marché, etc. Et puis, il faut aussi, moi, je pense quand même, des contrats qui puissent évoluer en fonction de votre âge, où vous pouvez faire varier la part entre unité de compte, hein, unité de compte, c'est tout ce qui est actions, il peut y avoir SCPI ou autre, et fonds euros, hein, tout ce qui est garantie. Et après, sur les fonds euros, les assurances 100% fonds euros, c'est quand même de plus en plus rare de pouvoir y avoir accès. Après, moi, la question que j'avais envie de poser à Christian, c'est justement, vu que vous avez un historique immense sur les assurances vie, est-ce que c'est toujours un peu les mêmes qui sont aux premières places ou est-ce que ça change tous les ans?
Alors, ça, c'est une excellente question. Eh bien, à la différence, par exemple, des fonds d'investissement, non, sont souvent les mêmes. Sont souvent les mêmes qui sont en haut du panier, et notamment les contrats des mutuelles. Je pense par exemple à la MACSF, on aurait pu aussi parler de l'affaire, même si cette année, enfin l'affaire c'est une association, mais la MACSF, le conservateur, ce sont toujours les mêmes qui sont meilleurs dans la durée. Et c'est ça qui est très important. Il ne faut pas regarder les performances une année. Vous avez notamment parmi tous les nouveaux acteurs et les nouveaux entrants sur Internet des taux boostés artificiellement pour attirer donc, les nouveaux versements, voire attirer les encours. Ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est que souvent les meilleurs contrats hier sont encore les meilleurs contrats aujourd'hui. Sachant bien sûr que les caractéristiques d'un bon contrat il y a 20 ans et aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'un bon contrat il y a 20 ans, c'était forcément le fonds en euros. Hein, on rappelle que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, pas un placement. Donc au sein de cette enveloppe fiscale, il y a 20 ans, c'était uniquement l'assurance vie sans risque en euros. Depuis le début des années 2000, même à la fin des années 90, aujourd'hui, vous avez, et la plupart des contrats même anciens se sont ouverts, et vous avez la possibilité de diversifier vos placements. Ensuite, les contrats d'hier sont encore excellents. Bien sûr, il faut souvent les compléter parce qu'ils sont bons sur le fonds en euros avec des contrats plus modernes, plus récents et qui, là, vont offrir une palette, je dirais, d'investissements sans doute qui sera plus variée. Voilà. Ce qui est important, en fait, avec le contrat avec l'assurance vie, c'est vrai qu'on en parle depuis 5-6 minutes et, en fait, ça, c'est révélateur. C'est révélateur de quoi ? C'est que c'est un placement très grand public, quand même près de 40 millions de Français concernés. Pardonnez du peu. Bon, plus de quasiment 2000 milliards d'euros, 75% du PIB français. À côté de ça, le livret A, ça tourne autour des 500 milliards.
C'est vraiment, 75% de la dette aussi.
C'est vraiment deux si poids, deux mesures, positivons. Et pourquoi on en parle depuis tout à l'heure? Non seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, mais aussi et surtout parce que c'est un placement populaire, mais complexe. Et donc, c'est vrai qu'il est nécessaire un tout petit peu d'essayer de soulever le capot pour voir si le produit que vous avez ou le produit que vous envisagez de souscrire répond vraiment bien à vos besoins.
Un mot pour finir ce tour d'horizon sur l'épargne salariale, car c'est la semaine intergalactique de l'épargne salariale. Et nous avons déjà évoqué hier les niveaux records des PE, des PERCOL, mais nous voulions votre regard sur cette actualité, Christian, ou sur ce baromètre.
Alors, l'actualité, elle est double. Les chiffres, vous les avez déjà donnés hier et vous venez de les rappeler en partie. C'est vrai que l'épargne salariale fonctionne bien, mais là, c'est vrai que c'est la semaine de l'épargne salariale, mais la vraie actualité pour les 12 millions de Français concernés par l'épargne salariale, c'est qu'ils vont, on va rentrer dans la période de versement des primes d'intéressement et de participation. Et c'est ça le côté presque miracle de ce placement, c'est qu'il est alimenté par des primes versées par l'employeur. C'est pas, vous n'avez pas directement à décaisser l'argent. Et donc là, vous allez être confronté à un choix. Bon, ces primes d'intéressement et de participation qui vont vous être versées dans les semaines à venir, vous allez devoir décider soit de les encaisser, soit de les placer. Alors attention, surtout vous devez vous prononcer. Si vous ne vous prononcez pas, une partie de cet argent va aller sur de l'épargne et sera bloquée jusqu'à la retraite. dommage, en tout cas si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc le conseil du revenu, bien sûr, c'est de placer cette épargne. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet d'échapper à l'impôt sur le revenu, donc au taux marginal d'imposition sur ces sommes qui du coup ne sont pas taxées. Elles ne subissent entre guillemets que la CSG et CRDS, donc à 9,7, c'est quand même très différent qu'un taux marginal d'imposition à 30, 41 ou 45%. Deuxième ensuite conseil du revenu, pour ces primes d'intéressement et participation, placez-le plutôt sur le plan d'épargne entreprise et pas sur l'autre enveloppe fiscale accessible, le plan d'épargne retraite collectif. Pourquoi ? Parce que ce dernier, votre argent est bloqué jusqu'à la retraite, tandis que dans le précédent, il est bloqué que 5 ans. Vous en conviendrez avec moi, c'est quand même moins pénalisant. Et le troisième conseil, c'est de choisir les bons supports d'investissement pour cet argent. Encore une fois, si vous ne vous prononcez pas, cet argent va être investi sur des produits sans risque, souvent des fonds monétaires. Et vous savez que les fonds monétaires aujourd'hui rapportent 3%, mais les taux de la BCE et de la Fed vont baisser, les taux à court terme vont baisser, et donc le rendement de ce fonds aussi va baisser. Donc en fait, les bons fonds pour vous, ça dépend un peu de votre horizon de placement. Si vous savez que vous allez avoir besoin de cet argent au cours des 5 prochaines années, vous ne posez pas de questions, vous placez immédiatement sur le fonds monétaire. Si votre horizon de placement est entre 3 et 8 ans, le revenu vous conseille 60% de monétaire, 20% d'obligations et 20% d'actions. Et au-delà de 8 ans, vous me placez tout en actions.
Voilà ce qu'il faudra bien avoir en tête si et quand vous touchez de l'intéressement ou de la participation. Jean-Louis, le mot de la fin, c'est plutôt bon signe.
C'est plutôt bon signe, ça veut dire que les entreprises vivent bien, ont des bénéfices et puis que ça bénéficie quand même à beaucoup de salariés. Alors, pas tout le monde, malheureusement, mais l'épargne salariale, ça concerne quand même plusieurs millions de Français et donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, peut-être que l'année prochaine, ça va peut-être un peu plus coincer parce que là, on est quand même sur des niveaux quasi records de bénéfices pour les entreprises, en tout cas pour les grands groupes cotés.
12 millions de Français concernés, un tout petit peu moins de 400 000 entreprises en France qui utilisent des dispositifs. Voilà, tendance que nous suivons de près dans cette émission. Merci à tous les deux. Merci Jean-Louis Dalloro de BFMBusiness.com. Merci Christian Fontaine du Revenu qu'on retrouve dans une heure. Nous allons zoomer sur le PEA.
Eh oui, le plan d'épargne en action. Vous nous posez beaucoup de questions sur cette thématique, aussi bien chez vous, Lorraine, qu'au revenu. Et c'est vrai qu'on va essayer de regarder. Le PEA est d'actualité. Pourquoi c'est d'actualité ? Parce que c'est la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse. Et c'est vrai que depuis début de l'année, comme l'année dernière, la bourse a fortement progressé. Et donc le petit jeu, ça consiste bien sûr à gagner en net le maximum, donc à optimiser les impôts. Et le PEA, c'est un super outil pour ça.
Voilà, et nous répondrons à la question de Mathieu qui possède un PEA depuis bientôt 5 ans. Il a 2000 euros de liquidité dessus. Il souhaite investir sur l'IA. Il nous demande nos bons conseils. Mathieu, on vous répond d'ici une heure. Petite pub et après Nicolas Dose vient nous parler du déficit public. Ce sera la dose d'économie. A tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose quotidienne avec notre dealer d'économie. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nous allons parler du déficit public 2023. À moins que vous veniez seulement de brancher la télé ou la radio. Vous
c'était à 7h30, oui.
Vous êtes au courant que les chiffres ne sont pas bons.
Non. 5,5.
Racontez-nous.
5,5% de déficit. Alors on peut se rassurer en se disant, on attendait 5,6. Sauf que initialement, on avait prévu 4,9. Vous me direz 4,9, 5,5. Ouais, c'est 0,6 points d'écart. Oui, mais 0,1 point, ça fait 3 milliards qui manquent dans les caisses de l'État. Donc 0,6, ça fait 18 milliards qui manquent dans les caisses de l'État. Objectivement, c'est quand même assez grave. Ça finit par le devenir. Parce que d'abord, les montants sont importants. Là, vous avez le déficit public qui s'élève à 154 milliards d'euros. C'est une année de recettes de TVA. C'est le chiffre le pire de la Ve République en dehors des années de crise et des années de récession. Après, le remboursement des intérêts de la dette, parce que la dette, en fait, c'est du déficit accumulé. Cette année, on dépasse 50 milliards d'euros pour la première fois, pour rembourser uniquement les intérêts de la dette. Au train où vont les choses, là, en 2027, une année de recette d'impôt sur le revenu, ce sera ce qu'il faudra pour payer les créanciers. Alors, on prendra l'impôt sur le revenu, là, vous payez votre impôt, hop, l'argent s'en va, et va rembourser les créanciers de la France. On devrait être au-delà des 80 milliards de remboursement de dette. Troisième élément, bon, je crois que tous les pays ont vécu la même pandémie au même moment.
Oui.
Le même choc, en Europe, notamment, le même choc énergétique au même moment. On partage la même monnaie que pas mal d'entre eux. Et là, vraiment, l'écart se creuse. Là, vraiment, l'écart se creuse entre nous et les autres. Alors, on va se rassurer. Oh, regardez, l'Italie est à 7% de déficit. Et effectivement, ils ont un ratio de dette supérieur aux autres par rapport au PIB. Sauf qu'on a quand même le record de la dépense, le record des prélèvements, on le sait, le record des émissions de dette. Vous prenez les Pays-Bas, ils sont pratiquement à l'équilibre en 2023. Ils sont à moins 0,3 de déficit. Le Portugal est en excédent. Plus que prévu. L'Allemagne se redirige paisiblement vers les 60% de dette publique. Tandis que l'INSEE nous a dit ce matin que la dette publique de la France, même si en 2023, Elle est un peu plus basse qu'en 2022. Elle est quand même pratiquement un point au-dessus de ce qui était prévu. On est à 111. Donc là, l'écart se creuse. C'est un vrai sujet que l'écart se creuse. Et puis, dernier élément, on est en 2024, donc nous allons fêter le 50e anniversaire de nos budgets dans le rouge. Et très probablement, les agences de notation vont nous le faire savoir à la fin du mois d'avril. Je suis persuadé que une dégradation de notes n'aura pas d'effet particulier sur la capacité à placer notre dette publique, parce qu'elle est libellée en euros et qu'on est quand même très corrélé à l'Allemagne. Mais enfin, c'est quand même une sacrée humiliation. Donc non, c'est pas vrai de dire que la France, c'est la Grèce, comme l'a fait les Républicains. Mais enfin, on a des premières places du podium qu'on n'est pas prêt de laisser tomber. Et on voit que ça se précise et que ça se confirme.
Soyons pragmatiques, peut-être pro-business, devant une situation aussi négative. Que peut faire l'exécutif ?
Il y a une alternative. Soit il faut dépenser moins, soit il faut gagner plus. Alors dépenser moins, on a commencé à le faire avec un rabot d'urgence à 10 milliards d'euros par décret. Bon, on a bien vu l'histoire. On est allé taper dans les administrations centrales, taper dans les ministères, en d'ailleurs rognant sur des dépenses qui ressemblaient à des dépenses d'avenir. Parce que c'était plus simple de taper dans celles-là que dans d'autres, qui sont plus structurelles et difficiles à atteindre. Et puis, là, on va avoir la deuxième salve qui va commencer, très probablement avec Gabriel Attal, qui prend la parole demain dans le JT de TF1. Sans doute pour commencer à nous donner les grandes lignes de ce que sera la réforme de l'assurance chômage. Ce sera sans doute le point de départ d'une nouvelle salve d'économies de dépenses, cette fois-ci dans la dépense sociale. Je vous refais pas la liste, hein, les affections longue durée, les transports sanitaires et tutti quanti.
Bon, donc dépenser moins, l'autre solution c'est de gagner plus.
Alors gagner plus, il faudrait de la croissance, sauf que là on est en phase de ralentissement de la croissance, très nettement. La productivité décline depuis 4 ans, même si la Banque de France a commis un rapport qui se veut un peu rassurant en disant qu'on devrait commencer à rattraper le retard d'ici 3 ans, enfin sur les 3 années qui viennent, le taux de chômage remonte. Alors sinon, pour gagner plus, il vous reste les prélèvements obligatoires, ou dans un premier temps, le fait de couper dans des dépenses fiscales, c'est-à-dire que quand vous taillez une niche fiscale, quand vous taillez un crédit d'impôt, quand vous taillez un avantage fiscal, ça ne s'appelle pas vraiment une hausse de prélèvements obligatoires, mais ça a à peu près le même effet, et je crains qu'on prenne cette direction-là.
Voilà, le regard de Nicolas Dose sur ce déficit public qui se creuse, sombre 50e anniversaire, vous nous dites. Merci Nicolas, je précise que cette chronique est à retrouver en podcast sur le site ou l'application BFM Business et également sur YouTube si vous voulez participer à la discussion dans la zone de commentaires. À demain, cher Nicolas. Nous allons faire le point hebdomadaire sur les petites et moyennes valeurs.
Tout pour investir en portefeuille.
Le journal des small et mid-cap avec vous, Eric Lewin, bonjour.
Bonjour ma chère Lorraine.
Rédacteur en chef des publications Agora, comme chaque mardi, on fait le point sur les indices avec quelques opérations qui repartent. Racontez-nous.
Ah ben alors on y va, alors le CAC Small sur la semaine fait plus 1% alors que le CAC 40 fait moins 0,6%, c'est donc un peu mieux, mais depuis le début de l'année, avantage CAC 40 plus 8%, CAC Small moins 0,4%, et oui, les opérations financières reprennent, on a appris en début de semaine qu'il y avait une OPA sur Micropole, spécialiste de la business intelligence, OPA 1,50€, prime de 44%, et où c'est intéressant, c'est que l'initiateur de l'offre s'appelle Sébastien Lombardo, il avait fait l'opération Valtec dans les années 2010, et donc il s'associe avec deux fonds, Nextage et Dorval, qui ont 21% du capital, pour lancer cette opération. Il risque d'y avoir une bataille boursière dans l'air, puisque la direction de Micropole, qui a plus de 20% du capital, n'est pas pour cette opération et s'accroche, donc on va avoir un nouveau feuilleton, c'est plutôt sympathique. Micropole, c'était l'un des derniers rescapés dans ce monde de la business intelligence, puisque business et décision, mais également Kerus avait fait l'objet d'offres publiques. Et donc ça fait du bien au marché. À noter également, c'est plus gros, 3 milliards d'euros, mais Bolloré vient de prendre 5% de Ruby. On est dans la distribution de produits pétroliers, mais pour lancer une OPA, ça sera compliqué, parce que Ruby est ce qu'on appelle une commandite par action, c'est-à-dire un statut spécial où c'est très difficile de faire une opération financière.
Vous allez nous parler de folie, la folie Esso.
Ben écoutez, la folie Esso, alors Esso, filiale d'Exxon, a plus de 80%, on est dans la distribution et le raffinage de produits pétroliers. Une année 2023 exceptionnel, puisque l'EBITDA est passé de 780 millions d'euros à 964 millions d'euros. La trésorerie qui était négative en 2022 est maintenant positive à hauteur de 1 milliard d'euros. Et donc, que font nos amis Dassault? Ils versent un super dividende, c'est-à-dire qu'en tout, il y a 3 euros de dividende classique et 12 euros de super dividende, ça fait 15 euros. Quand l'annonce est sortie, le rendement était supérieur à 18%. Et donc, l'action Esso s'envole littéralement depuis le début de l'année. Elle gagne plus de 100%. Esso, elle gagne même 112% depuis le début de l'année, 36% une semaine, 53% en un mois. Et donc, la société rémunère ses actionnaires de façon intéressante. Bien évidemment, il faut garder le titre Esso jusqu'au versement de ce fameux dividende. Et puis, il y a aussi l'aspect spéculatif. Je vous le disais, Exxon a plus de 82% du capital. Quand vous appelez Exxon, est-ce que vous avez l'intérêt d'avoir une filiale cotée à Paris de ne pas racheter les 18% restants? Il y a une vraie question philosophique à se poser. C'est pour ça qu'il faut encore rester positif sur ce dossier.
Voilà, positif sur Esso. On va parler d'une dernière valeur. Vous nous ramenez à la maison, si je puis dire, avec Exahome.
Alors oui, spécialiste de la construction de maisons et de la rénovation avec les marques Maison France Confort, Maison Balenci, un secteur qui est dans la panade la plus complète en vraie décrépitude. Alors finalement, les résultats sur 2023 sont solides. Chiffre d'affaires plus 6,3% à 1 milliard. La marge opérationnelle a gagné 40 points à 3,7%. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le groupe sait très bien que 2024 va être une année catastrophique, puisqu'il y a des baisses entre 30 et 40% de prévues, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir sur un chiffre d'affaires qui passerait de 1 milliard à 700 millions, mais la rentabilité devrait rester au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que le groupe sait extrêmement bien gérer sa crise, a prévu notamment de baisser de l'ordre de 18% ses coûts fixes. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que vous avez une trésorerie nette de 80 millions d'euros, mais le groupe est prudent. Il ne veut pas verser de dividendes, mais s'autorise des rachats d'actions. Et pourquoi j'aime bien ce dossier ? C'est parce que même avec la crise immobilière qu'on connaît tous, ces ratios de valorisation sont, ma chère Lorraine, complètement bradés. PER de 6, et alors valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA, on est sur 1,8. Très honnêtement, j'ai passé la cote open fin. Je n'ai pas trouvé, ou peut-être j'ai fait des erreurs, j'ai pas trouvé une valeur qui était aussi peu chère en termes de valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA. Le titre, moins 47% en 3 ans, plus 5% depuis le début de l'année. Vous avez la famille Vendrome qui a 56% du capital, on a un flottant de 42%. Là aussi, pourquoi pas, même si le secteur ne se prête pas du tout à la concentration, parce que dans la construction, c'est un peu la soupe à la grimace. Et pourquoi pas un jour, une opération également sur ce dossier. Donc je suis plutôt positif sur ce dossier, même si on comprend que la construction va connaître une année 2024 difficile, mais tout le monde le sait. Donc est-ce que c'est pas déjà largement intégré dans les cours de bourse? Pour moi, oui. Donc je pense qu'il y a encore peut-être 15 à 20% à gagner sur ce dossier. Donc Exahome, pour ceux qui cherchent la valeur, ça s'appelait Maison France Confort il y a encore quelques années.
Voilà, Exahome, H-E-X-A-O-M, pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. On a également évoqué Esso, la marque, je vous imagine que vous connaissez, associée à la compagnie pétrolière américaine Exxon, E2SO, et puis Micropole, hein, en début de chronique avec vous, Micropole. Eric, un petit mot pour finir cette interview. Qu'allez-vous regarder d'ici la fin de semaine? Semaine écourtée sur les marchés. Quel est le mot d'ordre de votre semaine?
Bah écoutez, non, en fait, cette semaine, il va pas se passer grand-chose. Alors, j'ai cru savoir qu'il devait y avoir je crois qu'il y a un chiffre économique vendredi, alors que la bourse sera fermée sur un PCI aux États-Unis. Non, sinon, je regarde moi toujours dans le monde des small limit caps les opérations qui risquent de se multiplier. Et la grande problématique, c'est toujours celle de la liquidité qui se restreint comme peau de chagrin. Je voudrais juste ajouter une chose. Je pense que ça nous a pas échappé, mais dans les IPO, c'est une décision de l'AMF. La part réservée aux particuliers devient facultative. Vous savez, ma chère Lorraine, qu'il y avait 10% qui était réservé aux particuliers lors d'une introduction en bourse. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans vos émissions.
Oui, on l'a déploré avec François Monnier vendredi de la rédaction d'Investir.
Ça veut dire également que maintenant, on va réduire les délais de l'offre. On peut avoir des délais de 2 à 3 jours. Ça va simplifier les montages, ça va réduire les coûts. Donc ça, c'est pour l'aspect positif. L'aspect négatif, bien évidemment, c'est qu'on élimine les particuliers d'opérations qui pourraient être intéressantes alors qu'on a tant besoin des particuliers, parce que je regardais les dernières statistiques. Dans le monde des small et mid, les particuliers, c'est quand même 40% du volume quotidien. Donc il faut quand même déplorer ce genre de mesure, mais qui n'est pas une mesure obligatoire, c'est-à-dire que rien n'empêche en fait une société de dire bah, écoutez, moi je continue à réserver 10% de mon capital lors d'une introduction en bourse, mais la démarche est à déplorer, d'autant qu'il y a un an l'AMF avait voté exactement le contraire, mais c'est vrai que depuis le collège de l'AMF a évolué, mais enfin il faut quand même déplorer ce genre de mesure.
Voilà, merci beaucoup Eric Lewin pour votre regard sur le monde des mid et small et puis plus largement sur le monde de la bourse, rédacteur en chef des publications Agora qu'on retrouve régulièrement dans Tout pour investir mais aussi dans BFM Bourse qui s'occupe chaque jour dès 15h30 et bien de décortiquer l'actualité financière, celle des marchés, l'ouverture de Wall Street. Guillaume Sommerer et toute l'équipe de BFM Bourse à retrouver en direct 15h30 ou en podcast à n'importe quelle heure. Vous restez avec nous, on va s'occuper de votre argent, notamment si vous touchez une très grosse somme d'argent. Ça peut arriver. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Notre gestionnaire de patrimoine, Bastien Baron, est avec nous pour répondre à cette question.
Tout pour investir, le coach.
Le coach d'argent, le coach de grosses sommes d'argent. Si vous venez à toucher une grosse somme d'argent, il y a des erreurs à ne pas faire. Bastien Baron vous prend par la main. Bonjour Bastien.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes conseiller en gestion de fortune chez Justae Gestion Privée. Avec vous, on réfléchit à ces situations qui arrivent, pas qu'aux autres. Héritage, donation. Quelle autre situation fait qu'on peut être très très riche du jour au lendemain?
Un gain au jeu, ça peut être sympa. Une vente immobilière, ça peut être vendre sa société... Vendre des actions gratuites, lever et vendre des stock options. Il y a pas mal de possibilités. Rupture conventionnelle aussi, on voit des trucs assez importants qui arrivent.
Dans tous les cas, prudence et patience, vous allez nous dire. Il faut réfléchir à ses objectifs financiers. Vous allez nous dire déjà, pour commencer, les pires trucs à faire. Les erreurs que si vous les commettez, vous êtes vraiment mal. Racontez-nous.
Première chose, c'est déjà de ne pas anticiper la fiscalité l'année prochaine. Alors, sur certaines opérations, on est fiscalisé immédiatement, donc c'est assez facile. Mais je prends l'exemple qui est assez régulier, on va dire, sur notamment les ventes d'actions gratuites, les levées et ventes de stock options. La fiscalité, elle est qu'en N+1. Et finalement, si on a accumulé une certaine somme, qu'on l'a dépensée ou qu'on l'a allouée de manière illiquide, ben on a une mauvaise surprise lorsqu'on fait sa déclaration l'année suivante. Et souvent, on se retrouve avec des situations assez rocambolesques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est souvent un biais qu'on peut avoir. On se dit, j'ai une somme d'argent qui arrive, j'ai de la dette, j'ai des flux sortants réguliers, je paye une mensualité.
Par exemple, un crédit immobilier.
Un crédit immobilier, ouais, tout simplement. Et en fait, bah, je me dis, cette somme, je rembourse mon crédit, comme ça, j'ai plus les mensualités, j'ai plus la dette, je suis plus sécure, etc. Et finalement, c'est pas forcément une bonne stratégie parce que donc, il n'y a pas eu énormément de crédits sur les deux dernières années depuis que les taux sont élevés. Donc, on est plutôt, en réalité, sur des taux à 1 à 2% finalement. Donc faible. Dans le crédit immobilier, il y a quand même l'assurance emprunteur qui permet aussi de protéger son conjoint, sa famille, etc. s'il nous arrive quelque chose. Et puis, si on est à l'IFI, on a en plus une déduction de la dette, donc à des taux de 0,70, 1%, etc. Tout ça fait que finalement, le crédit, il coûte extrêmement peu cher et beaucoup moins cher que ce que votre épargne peut rapporter. On rappelle que les livrets réglementés, livret A, livret développement durable, rapportent 3% net de fiscalité par an. Et qu'on peut aller au-delà si on s'organise.
Bon, vous l'entendez, en tout cas dans le contexte actuel, ça n'est pas une bonne idée de rembourser un crédit immobilier auquel on aurait souscrit il y a quelques années, au moment où les taux étaient bas, même si on touche une grosse somme d'argent. Il y a une chose aussi qu'on est tenté de faire, c'est faire comme les autres, comme quelqu'un de sa famille, comme un ami, un ou une collègue. Et ça, c'est pas une bonne idée, vous nous dites.
Non, parce que forcément, on voit aussi beaucoup d'influenceurs maintenant. Donc, on entend des personnes sur Internet et on se dit, tiens, je vais faire un petit peu comme eux. Sauf qu'en réalité, la personne qui va vous donner un conseil, elle n'est pas dans la même situation que la vôtre, d'un point de vue personnel. Pas le même âge, peut-être pas la même situation maritale, peut-être pas les mêmes enfants, enfin des enfants en tout cas, etc. Le même patrimoine, etc. Et en fait, en plus, surtout, ce qui est important, c'est que vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs. Peut-être pas, en fait, voilà, ce que vous visez, c'est pas du tout la même chose et surtout pas la même appétence au risque. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc souvent, ce qu'on conseille, c'est de ne pas faire exactement la même chose. Et il y a surtout un biais aussi qui est assez universel, c'est que quand on entend des gens autour de soi, tout le monde réussit, tout le monde fait que des bonnes opérations en bourse, on en parle souvent sur, ici, et finalement, on a l'impression que tout le monde est très bon, alors que tout le monde est omet de
raconter des choses qui ne marchent pas.
Exactement, les choses qui ne marchent pas. Donc souvent, on se fait une image et finalement, c'est pas la meilleure solution.
C'est vrai qu'on fait rarement des posts sur les réseaux sociaux sur ces erreurs et les choses qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi quelque chose qui est terrible, c'est quand on gagne une grosse somme d'argent, vous l'avez rappelé, au gain, lors d'une rupture conventionnelle, un gros bonus, une cession de titres, un héritage, c'est de ne rien faire.
Ça, c'est peut-être ce qu'on voit le plus souvent.
C'est vrai.
C'est-à-dire, les personnes se posent des questions, puis le temps passe, l'argent est toujours sur un compte courant, il a été placé sur un livret, vu que les montants sont importants, du coup, qui est non réglementé, donc qui est fiscalisé. Et finalement, bah, le temps passe, il y a un petit peu d'intérêt, donc on a l'impression de ne pas perdre d'argent, mais finalement, versus l'inflation, on perd de l'argent de manière quotidienne. Mm. Mais bah, on se sent en sécurité, et finalement, le temps passe. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ne rien faire.
Voilà, alors attention. Anticipez l'éventuelle fiscalité, ça c'est très important. Ne remboursez pas votre crédit IMO. Ne copiez pas vos collègues, vos amis. Et puis surtout, faites quelque chose. Bon, alors maintenant, vous nous avez dit ce qu'il ne fallait pas faire. Dites-nous les choses qu'il faut faire. Quelle est la grille d'action qui est utile à avoir en tête?
Je pense que la première, c'est prendre des conseils. Là, ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais en fait, c'est prendre des conseils, c'est assez logique. On peut s'appuyer justement sur ses collègues, sur ses amis, etc., qui sont peut-être eux-mêmes conseillés. Et donc, par le jeu des recommandations, c'est quand même intéressant.
Ouais, c'est-à-dire qu'on écoute ses collègues et ses amis pour le carnet d'adresses.
Exactement.
Pas pour les conseils financiers.
Et c'est comme pour un resto, au final. On va leur dire, tiens, où est-ce que je peux aller? Un truc sympa, et on y va. Souvent, le premier rendez-vous, en plus, il est offert, parce que l'idée est de voir s'il y a un bon feeling qui va matcher, etc. Donc, au pire, vous avez perdu un petit peu de temps et vous avez eu quelques conseils gratuits. Et au mieux, il y a une relation qui se crée et vous pouvez avancer. Il y a une chose à préciser qui est assez importante, c'est que ce que beaucoup oublient, et c'est pour ça que c'est important de le préciser, les gérants, par exemple, de fonds de private equity qui touchent des carried interest importants, il y a des foncières, etc. Tous ces acteurs-là sont accompagnés en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont très très bons dans un domaine particulier. Donc c'est sûr que le gérant de private equity, on ne va pas l'accompagner pour lui conseiller d'autres investissements sur ce sujet-là. Mais sur tout le reste, il n'est pas forcément accompagné. Même chose pour une foncière. Une foncière, évidemment, sur la partie immobilière, elle a l'habitude, ça va être géré, etc. Mais sur toute la trésorerie et autres, elle est accompagnée également. Mmh. Donc c'est important, en fait, de comprendre que personne ne maîtrise forcément 100% du sujet.
Peut-être une question que j'aurais dû vous poser en début de séquence. Quand on parle d'une grosse somme d'argent, c'est gros comment gros?
Je redoutais la question, j'étais content qu'on l'ait un petit peu zappé. C'est pas facile à dire, mais je pense que c'est, on peut peut-être dire plusieurs années de revenus, par exemple, pour le citer, comme ça dépend des revenus de chacun. Mais c'est une somme qui va quand même changer un petit peu votre vie. C'est pas l'euro million non plus, mais c'est une somme où on commence à se poser des questions. On se dit, mes livrets sont déjà au plafond, j'ai déjà fait quelques trucs. Bon, bah là, qu'est-ce que je peux faire en plus? Voilà, c'est peut-être plutôt ça l'idée.
Voilà, vous retiendrez qu'une grosse somme d'argent, c'est plusieurs années de revenus pour cette séquence. Bon, on prend des conseils, vous nous l'avez dit, mais il faut aussi réfléchir, planifier d'un point de vue patrimonial. C'est ce qu'on essaye de faire parfois dans cette émission, alors expliquez-nous ce que ça signifie.
Oui, tout à fait, je pense que le but, et de toute façon ce qui va être fait avec le professionnel, c'est aussi de se lancer dans une planification un peu plus globale, une planification patrimoniale. Premièrement, on va commencer par identifier vos objectifs. Donc ça peut être... si vous avez des enfants, anticiper leurs études. Ça peut être préparer la retraite. Selon votre âge, commencer à optimiser votre transmission. Mm-hmm. Acheter une résidence secondaire, etc. Et ensuite, on va les hiérarchiser. Parce que peut-être que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Et l'idée en fait, de tout ça, c'est quoi? C'est que chaque objectif que vous allez avoir ne va pas avoir le même horizon de placement. Et on en parle régulièrement. L'horizon de placement, il est très important. Parce que... deuxième sujet, c'est que plus on a l'espérance de rendement, elle est directement liée au risque que l'on va prendre. Et plus on a du temps devant soi, plus on peut accepter une certaine dose de risque, oui, d'illiquidité. Donc le but, ça va être, si j'enchaîne derrière, c'est de créer une stratégie patrimoniale assez globale. En fait, on va organiser votre patrimoine par rapport à l'horizon de placement que vous avez.
C'est construire une pyramide patrimoniale avec tout en bas, quelle épargne?
En fait, au départ, on commence toujours par l'horizon le plus court. Donc c'est quoi? C'est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est quoi? C'est tout le monde a besoin d'avoir son petit matelas de sécurité, donc de 10 000 à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon les personnes, plus toutes les dépenses qui sont certaines dans les 18 prochains mois.
Ok, donc c'est l'horizon de 18 mois.
Oui, 18 mois maximum, ça c'est ce dont vous avez besoin. En général, c'est quoi? C'est les livrets réglementés, mm-hmm. livret A, livret développement durable. Ça fait déjà à peu près 35 000 euros par personne. Aujourd'hui, il y a les comptes à terme qui sont encore bien rémunérés. Et ça, en fait, en réalité, ça va vous permettre de couvrir l'inflation. Donc déjà, vous allez accepter de ne pas vous enrichir, mais vous ne perdez pas d'argent.
Après, l'étage du dessus, c'est le moyen terme. Qu'est-ce que c'est le moyen terme?
Alors, l'épargne de moyen terme, c'est un horizon de 4 à 5 ans. Ce sont des dépenses qui sont certaines. Ça peut être, on parlait tout à l'heure d'études des enfants. Vous mm-hmm. savez, vous avez un enfant qui va faire un MBA aux États-Unis. Ça va coûter un petit peu d'argent.
Vous allez Moi, je vous dis, si j'ai un enfant qui fait un MBA aux États-Unis, il va le financer tout seul.
si c'est possible, ouais, effectivement. Si vous voulez l'aider et autres, voilà, ça peut être ça. Ça peut être, on parlait d'acheter une résidence secondaire. Peut-être que vous avez besoin d'un apport. Ça peut être des travaux de toiture, un ravalement de façade. Enfin, bref, tous ces sujets-là, vous dites, c'est certain, dans 3-4 ans, je ne prends pas de risque. Et aujourd'hui, sur quoi vous pouvez être rémunéré? Bah, on voit que sur un contrat d'assurance vie, aujourd'hui, il y a des fonds en euros qui ont quand même des taux boostés. On va arrondir, mais aux alentours de 4% net, qu'on peut...
Attirer les nouveaux fonds.
Exactement, et qu'on peut peut-être doubler avec des fonds obligataires datés, pas trop risqués, ou des fonds monétaires. Donc voilà, sur ces horizons-là, on peut aller rechercher un rendement de l'ordre de 4% net et... sans prendre forcément beaucoup de risques.
Bon, vous avez prévu le MBA de votre enfant, votre nouvelle toiture. Là, on va passer à l'épargne de long terme. Tout ce qui est au-dessus de 5 ans, qu'est-ce qu'on met dedans?
On peut mettre beaucoup de choses, en fait. Là, on peut commencer à accepter deux choses. D'une part, des fluctuations sur le capital qu'on va mettre. Et deuxième chose, une certaine illiquidité. Parce qu'on s'est organisé avant.
Ouais.
On sait qu'on a l'épargne de précaution qui est là. Et deuxièmement, on sait que les dépenses certaines dans les 4-5 ans, elles sont prévues. Donc on peut accepter une certaine dose de risque. Et c'est cette organisation qui va le permettre. Donc là, on va arriver sur énormément de choses. On va arriver sur les actifs cotés, actions, obligations. On peut arriver sur les actifs non cotés. Donc on a parlé un peu de private equity tout à l'heure. Ça peut être tout ce qui est dette privée, infrastructure. Dette privée parce que l'horizon est un peu plus court. Et puis enfin, on peut arriver aussi sur des actifs un petit peu plus alternatifs. Ça peut être des hedge funds. On parle souvent de crypto aussi ici. Donc ça peut être un peu des sujets. On a au moins 5 ans devant soi, on peut se permettre cette dose de risque.
Bon, Bastien, pour finir cette pyramide, il y a l'épargne de très long terme. Pareil, là on est au-dessus de 10 ans et là on est tout à fait prêt à prendre du risque. Qu'est-ce qu'on met dedans?
Exactement. Alors déjà, on peut mettre les mêmes choses que j'ai citées juste avant, avec une dose de risque supplémentaire et une dose d'illiquidité supplémentaire aussi. Donc là, il y a certains fonds de private equity, notamment, qui ont des durées beaucoup plus longues. Ça peut être ça. On peut déjà arriver aussi sur les sujets immobiliers. On investit rarement sur de l'immobilier pour 4-5 ans, sauf si on est sur les opérations particulières, mais je veux dire en règle générale. Donc on va voir ça. On va arriver sur l'art, potentiellement aussi, où là, il y a peut-être un côté affect également. On peut arriver aussi sur tous les sujets de groupements fonciers, forestiers, viticoles, qui vont avoir d'autres aspects, pas uniquement de rendement, mais aussi un aspect en termes de transmission. Donc on peut aussi combiner différents objectifs. Et puis potentiellement, selon l'âge que l'on a, on va arriver sur les sujets de retraite également.
Voilà. Évidemment, il nous faudrait une autre émission pour aborder ce sujet, mais en 30 secondes, il y a le sujet de la manière dont on détient cet argent, dans comment on organise ses poches, ses enveloppes. Il y a le sujet de est-ce qu'on détient en direct, est-ce qu'on monte une SCI, est-ce qu'on monte une holding. Ça, on va réfléchir à ce sujet typiquement avec qui?
Même chose, je pense que c'est avec un conseil indépendant au final. Pour l'instant, là, on n'a pas du tout parlé d'une seule solution, d'une seule compagnie, d'un seul fonds, etc. Là, c'est une approche qui est vraiment globale. Ensuite, on va effectivement arriver sur comment on détient ses biens. Donc, on a parlé d'un bien immobilier. Bah, est-ce que je vais monter une SCI? Si j'ai une holding, est-ce que ça a du sens ou pas d'en monter une? Ça, c'est plus sur la partie immobilière. On peut aussi avoir les sujets sur la partie financière. Bah, très bien, c'est bien d'investir dans les actifs cotés, comme on l'a dit, mais est-ce que c'est au sein d'un PEA? Est-ce que c'est au sein d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, sur un compte titre? Donc, ouais, tous ces sujets-là vont arriver après. Et enfin, la dernière étape, ça va être une fois qu'on a trouvé la compagnie qui est potentiellement le meilleur contrat d'assurance vie luxembourgeois, par exemple. L'idée va être après de trouver les meilleurs gérants pour faire l'allocation d'actifs.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans le cas où vous gagnez une grosse somme d'argent, les erreurs à ne pas commettre, les quelques conseils à avoir en tête. Merci beaucoup Bastien Baron de l'équipe de Justaïb Gestion Privée avec nous sur cette séquence de coaching. Vous restez avec nous, petite pause actu et après on continue à s'occuper de votre argent.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi à la radio, à la télé, sur le web. Et puis bien sûr, on salue ceux et celles qui nous écoutent depuis l'étranger en podcast. Le programme de l'heure à venir. Vous voulez investir dans l'immobilier, mais vous avez peur des galères locative. Vous voulez vendre, mais en même temps, vous voulez rester propriétaire. Et si vous étiez votre propre locataire ou votre propre acheteur, c'est possible. C'est Stéphane Descartiers, dirigeant de SD Conseil et Formation, qui va vous expliquer tout cela. C'est très courant, mais il faut respecter quelques règles. Ce sera dans l'immobilier d'ici 10 grosses minutes. Le question du jour porte sur le PEA. Christian Fontaine du Revenu nous expliquera qu'il permet évidemment aux ménages, à vous, de constituer une épargne boursière en franchise d'impôts. Et on répondra aussi à la question de Mathieu qui nous suit et qu'on salue, qui veut des conseils pour investir dans l'intelligence artificielle via son PEA. Ce sera dans 25 minutes. Et puis aujourd'hui, on investira dans les meme coins. Vous savez, ces jetons qui, en parallèle des crypto-monnaies, eh bien, bénéficient de l'excitation récente au sein du marché crypto. C'est Enzo Allo qui sera avec nous pour faire le point en fin d'émission. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre ce matin et à m'écrire sur LinkedIn. On vous salue. Vous continuez à réagir et à participer à l'émission. Vos questions qu'on peut traiter, eh bien, on les met dans le direct. Les autres, elles viennent alimenter la pompe à questions. Ça se passe sur LinkedIn en message privé Lorraine Gaumeau ou bien aussi en message à l'adresse direct@bfmbusiness.fr. Il est l'heure de passer une tête à Euronext où nous rejoignons Antoine Larigauderie. Antoine, le CAC qui est légèrement vert depuis qu'on s'est parlé il y a une heure.
Oui, ça bouge pas trop, mais c'est vrai qu'on a une petite pointe haussière hein, depuis ces dernières minutes. Plus 0,22% pour l'indice parisien qui est à 8168 points. Une tendance qui reste globalement indécise, hein, mais ça, on a le droit depuis le début de la semaine à ce sentiment, hein, ces hésitations de marché. Ça risque de perdurer, hein, vu le long week-end de Pâques qui nous attend. Plus 0,45%. Le DAX à Francfort, un petit peu plus décidé, hein, tout comme l'Eurostoxx 50 qui gagne 0,33%. À noter toujours une très belle hausse de BNP Paribas qui est soutenue par une recommandation à l'achat de Goldman Sachs. Le titre gagne 2,13% à 63,82€. Derrière, on a Kering qui fait un petit peu yo-yo depuis ce matin. Le titre était en baisse marquée à un moment et là, il reprend vraiment du poil de la bête. Hein, plus 1,4% à 358,65€. Et puis à noter des valeurs industrielles qui sont aussi aux avant-postes. Sanofi plus 0,8 à 90,36€. Safran plus 0,8 209,75€. Ou encore Renault plus 0,8% 45,97€. À la baisse, vous avez entendu Stéphanie, ajustement de participation d'une des familles actionnaires de Carrefour. Hein, ça provoque des ajustements techniques. Le titre perd 2,9% à 15,53. Notez Stellantis, moins 0,98 à 26,90. Ou ArcelorMittal, moins 0,69, 25,03. Plus forte baisse du SBF 120, c'est Orpea, moins 7,5%, 11 euros. On a Atos aussi, après parution de ses résultats. Évidemment, le titre en difficulté. Mais enfin, la sanction est un peu plus modérée que ce à quoi on a droit d'habitude. Moins 7,3%, on est à 1,59 €. Puis à noter la forte hausse de Rubis, plus 5,6%, 29,68, alors que Bolloré a passé le cap des 5% du capital et grignote un petit peu de participation. Le CAC 40 plus 0,21, 8168 points et l'euro 1,0858, Lorraine.
Voilà, le CAC tranquille sur sa ligne de flottaison en attendant peut-être une meilleure tendance. Vous nous emmenez à Londres, Antoine, c'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Et Londres qui se met aux produits financiers indexés sur le Bitcoin, racontez-nous.
Ben oui, disons que du côté américain, on privilégie les ETF, vous savez, les Exchange Traded Funds, des fonds cotés indexés sur le Bitcoin. Et là, à Londres, ce sont des ETN, des produits un petit peu similaires, sauf qu'on ne détient pas un actif cette fois, mais une forme d'obligation. ETN, c'est Exchange Traded Note, et pas fund, pas une part d'actifs. Tout ça va être lancé dès le mois de mai. Et les émetteurs, en fait, ont jusqu'au 15 avril pour proposer leurs produits financiers et les soumettre aux autorités financières de Londres. On a déjà quelques établissements réputés hein, qui se sont déclarés, notamment VanEck, 21 Shares, CoinShares et WisdomTree. Mais déjà, première restriction d'importance, il n'y aura pas d'accès à ce marché pour l'investisseur particulier. Ces produits ne seront tradés, échangés que par des investisseurs professionnels et institutionnels. Dommage pour les boursicoteurs. Ensuite, hormis quelques spécificités techniques, franchement, ces produits ressemblent quand même beaucoup à certains du même genre déjà échangeables sans problème sur Euronext ou Deutsche Börse. Souvent, on a les mêmes intervenants en plus, puisque Van Eck, par exemple, a été l'un des premiers à sortir, à trader des produits indexés sur le Bitcoin en Europe. Donc on se dit, où est le truc, où est la nouveauté? Et finalement, on se rend compte que Londres, en fait, ne fait rien de nouveau. Ils veulent accroître au maximum leur surface d'investissement pour leurs grosses banques et les gros fonds britanniques sur ces nouveaux supports. Ça fait partie de son initiative gouvernementale pro-crypto, qui veut faire de plus en plus de place à la crypto, à la bourse de Londres. D'un point de vue stratégique, c'est intéressant, alors que les affaires vont plutôt mal côté bourse. Maintenant, il va falloir déployer quand même des trésors de marketing pour déloger les acteurs qui sont déjà présents sur les autres plateformes européennes et décourager les investisseurs particuliers d'aller regarder du côté des ETF américains. Donc, chantier en cours, work in progress, mais encore un support qui devrait logiquement, mathématiquement soutenir quand même les cours du Bitcoin.
Voilà, Londres qui veut sa part du gâteau Bitcoin sans en refiler cette part aux Américains. Merci Antoine pour cette histoire financière à retrouver en podcast sur le site et l'application BFM Business d'ici quelques minutes. C'est bientôt l'heure de parler immobilier. On va parler de vous qui voulez investir mais qui ne voulez pas de galère locative. Vous qui voulez vendre mais qui en même temps voulez rester propriétaire. On va résoudre ces dilemmes, ces équations avec Stéphane Descartiers et Marie Cœur de Roy. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
Et si vous étiez votre propre locataire, Marie, est-ce que ça serait pas votre rêve?
Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ça va être l'objet de cet édito de Stéphane Descartiers que nous accueillons. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous.
Dirigeant de SD Conseil et Formation. Et si vous étiez votre propre locataire, voire votre propre propriétaire, racontez-nous, c'est votre édito.
Oui, c'est de l'autosatisfaction immobilière en quelque sorte. C'est la possibilité, parce que si vous voulez investir, mais en même temps vous avez peur un peu des aléas locatifs, ou vous voulez vendre, mais pas trop, vous voudrez bien vendre et toucher le fruit de la vente tout en restant propriétaire, il y a des solutions. Il y a des solutions, alors notamment comment être son propre locataire. Ça c'est un montage qui est très courant, c'est pas quelque chose effectivement qu'on va découvrir. Beaucoup de chefs d'entreprise le pratiquent, des dizaines de milliers de chefs d'entreprise le pratiquent.
Des médecins, des avocats par exemple.
Les médecins, les avocats, tous les experts comptables qu'on peut rencontrer, en tout cas que je connaisse, sont propriétaires de leurs locaux et louent à leur activité. Donc le principe est le suivant, vous êtes chef d'entreprise, votre activité marche bien, vous payez vos charges, vous payez bien sûr un loyer, mais vous payez un loyer un tiers. Et à un moment donné, vous dites, pourquoi pas devenir propriétaire de mes bureaux, de ma boutique, de mes locaux. Donc, pour ce faire, alors il y a deux solutions. Soit c'est l'entreprise qui achète, mais encore mieux, vous pouvez acheter à titre personnel, soit en direct ou soit au travers d'une SCI avec vos associés ou éventuellement votre famille. Vous achetez les locaux qui vous correspondent bien et vous les louez ensuite à votre entreprise. Donc ça comporte quand même pas mal d'avantages parce que le locataire, vous le connaissez, il est plutôt sympa. Il va pas être trop... Alors attention, il faut que le loyer soit dans le marché, etc. Bien sûr. Mais l'intérêt des locaux commerciaux, c'est qu'on a quand même des rendements qui sont supérieurs au logement, par exemple. Les locaux commerciaux, on arrive sans trop de problèmes à trouver du 6-7%. Donc,
je vais vous interrompre quand même, oui, parce qu'on va parler à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se posent la question de l'intérêt de la chose.
Oui.
Vous nous avez parlé du fait qu'on connaît le locataire. Ok, ça, on a bien compris le système. Mais on imagine qu'au-delà de ça, moi, je réfléchis bêtement. Je me dis, en même temps, je vais payer le bien immobilier.
Oui.
Je vais rembourser un crédit éventuel derrière. En tout cas, je vais payer le bien immobilier au démarrage. Si en plus, je suis la même personne qui vais devoir verser un loyer pour m'auto-rembourser... Quel est l'intérêt pour moi?
L'intérêt, c'est plutôt que de payer des loyers à un tiers et à fond perdu, entre guillemets, c'est de capitaliser en tant que personne physique ou au travers d'une SCI et de se verser, pas que l'activité vous verse des loyers et de cette façon, vous constituez un patrimoine personnel sans aucun problème. Il faut que le loyer soit dans le marché et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt des activités commerciales, c'est que les rendements sont plus élevés que sur le logement. Pourquoi? Parce qu'il y a une prime de risque. Notamment parce que les locaux commerciaux, vous avez plus de vacances, vous avez des risques d'impayés, il n'y a pas d'assurance loyer impayé pour les locaux commerciaux, etc. Mais là, le risque, en fin de compte, comme c'est vous-même le locataire, bon, bah, il est effectivement un peu plus
contenu. Mais je redis, Stéphane, quel est l'intérêt purement financier de l'opération ?
L'intérêt, c'est qu'au bout de 20 ans que votre crédit est terminé, vous êtes propriétaire d'un bureau ou d'une boutique qui a été payé grâce à votre activité. Alors que si vous restez locataire, au bout de 20 ans, bah, vous n'êtes pas propriétaire de vos murs, effectivement, de boutique et de bureau.
Oui, mais là, vous partez du principe. Moi, je me place du côté de celui qui achète. C'est-à-dire que moi, je pourrais acheter et le louer à un tiers sans avoir moi-même à me verser mes propres loyers.
Bien sûr, mais l'avantage de l'auto suffisance effectivement de cette sorte, c'est qu'effectivement vous maîtrisez un peu plus le risque puisque vous êtes votre propre locataire. Et donc voilà, donc ça permet effectivement de maîtriser l'aspect risque, l'aspect carence locative, l'aspect impayé, etc. Alors il faut que votre activité bien sûr fonctionne. Hein, sinon, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt. Mais lorsque votre activité est bien lancée, etc., bah, c'est la raison pour laquelle des dizaines de milliers de chefs d'entreprise pratiquent ça.
Mais on imagine que fiscalement, il y a des intérêts aussi, quand même, non ?
Oui, alors bah, il y a des intérêts classiques. Vous avez même un intérêt parce que, comme notamment si vous êtes concerné par l'IFI,
bah voilà.
comme c'est votre considéré comme votre outil professionnel. Y compris si vous êtes propriétaire à titre personnel et que vous louez à votre activité, comme c'est considéré comme outil de travail, eh bien, ça sort de l'IFI. Vous n'avez même pas, si vous êtes
redevable
de l'IFI.
Donc il y a quand même un intérêt à se faire du bien soi-même.
Oui, tout à fait.
Voilà,
mais notamment,
mais il faut quand même le dire, parce que c'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire...
Bien sûr.
Bon, ok, oui, on a compris le principe du risque avec un locataire tiers, mais... Pourquoi véritablement?
Mais notamment une astuce, alors notamment pour les dizaines de milliers de CGP qui nous écoutent, qui travaillent chez eux, parce qu'ils ont une activité, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de grands bureaux, etc. Ils travaillent chez eux. Bon, travailler chez soi, on connaît, c'est pas toujours simple. Notamment quand vous faites des visios.
Les enfants derrière.
Vous avez les enfants qui hurlent,
le chat
qui saute sur le clavier, le conjoint ou la conjointe qui passe en petite tenue derrière. Bon, on a tous connu ça.
Non.
Bref. Moi, j'ai vu déjà, donc bon, c'est des côtés sympas, mais enfin bon, bref. Donc, bon, ça peut être quand même des fois un peu compliqué. Donc, en tant que CGP, vous achetez un petit studio, une chambre de bonne, etc., pour par exemple, même à Paris, 100 000 euros. Vous empruntez la totalité, vous remboursez 600 et quelques euros. Vous louez à votre activité un bureau cosy, etc., 600 euros. Vous autofinancez et vous avez votre petit bureau cosy. Vous pouvez travailler tranquille. Personne vient effectivement vous embêter, etc. Donc voilà.
Et
vous autofinancez votre petit studio, votre chambre de bonne avec votre activité.
Stéphane, vous parlez de chambre de bonne et en ce moment c'est un peu des prix à la casse, notamment à Paris et à Lyon. Vous avez identifié
avec
ça.
Les plafonds de loyer notamment. Mais là, vous n'êtes pas concerné par les plafonds de loyer parce que vous louez pas un logement. Hein, vous louez une surface de bureau,
15 000 euros la chambre de bonne,
ça donne envie. Mais il y a des prix fracassés effectivement. Alors encore plus fracassés si vous avez besoin d'un petit bureau, vous pouvez viser les 8,90 m.
Oui, parce que c'est pas louable.
Ceux qui sont en dessous de 9 m², parce qu'alors là, les prix sont carrément fracassés.
Ouais, alors faut bien mettre l'angle de la caméra si vous faites des vidéos de vos clients pour pas avoir l'air d'être dans un placard.
Oui, tout à fait.
Bon, alors ça, vous nous dites, c'est quand même intéressant avec les taux actuels.
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que même si vous faites du 6 ou 7%, même en empruntant à 4%, bon, bah, ça tourne. Hein. Bon. Vous autofinancez avec un risque qui est quand même mesuré.
Bon, alors je reste propriétaire. Je suis propriétaire et je suis aussi locataire de moi-même.
Oui, tout à fait.
Mais je peux aussi être l'acquéreur de moi-même.
Alors ça...
Ça devient compliqué votre histoire quand même, Stéphane, on va pas se mentir.
Mais non, c'est pas si compliqué que ça. Alors... Maintenant, on arrive à la vente à soi-même. Ça aussi, alors les anglo-saxons appellent ça l'OBO, Owner Buyout. Donc ça, le principe, c'est de refinancer un bien, c'est de racheter un bien, notamment avec ses enfants, dans une logique de transmission. Alors je vous dis tout de suite, les cas les plus fréquents, c'est que vous êtes, par exemple, propriétaire d'un bien, vous n'avez plus de crédit, donc vous êtes massacré par les impôts. Mmh. Hein, globalement, quand vous continuez à louer, etc., l'histoire, on connaît l'histoire. Donc, votre tranche marginale, plus les prélèvements sociaux, vous êtes massacré par les impôts. Donc, vous posez la question de vendre. Mais en même temps, ça peut être un bien auquel vous êtes attaché, que vous voulez conserver dans la famille, etc. Puis, vous avez peut-être envie de transmettre, aussi, par exemple, à vos enfants. Donc là, les montages fréquents, c'est de monter une SCI avec vos enfants. Alors, pour que ce soit clean, il vaut mieux être minoritaire. Mieux, par exemple, que les parents soient à 49%, c'est quand même plus clean. Vos enfants, donc, possèdent le reste de la SCI. Cette SCI vous rachète votre bien.
Oui.
Et va ensuite, louer ce bien, etc., machin. Mais l'avantage pour le propriétaire, c'est que vous touchez l'argent, quand même. ou toucher les 300 000, 400 000 ou plus du bien.
En restant proprio.
En restant propriétaire, minoritaire, mais quand même en restant propriétaire. Et en tout cas, vos enfants sont dans le reste de la SCI.
Enfin, donc, j'ai tout, je me suis versé l'argent à moi-même.
Vous touchez le bien que vous pouvez réinvestir ailleurs ou rembourser votre résidence principale si vous avez encore du crédit ou que sais-je, ou vous rachetez une résidence secondaire ou que sais-je. Donc, vous restez propriétaire, vous touchez l'argent, vous restez propriétaire, donc c'est un peu le beurre, l'argent du beurre,
et ça veut dire que mes enfants m'ont donné de l'argent, c'est bien ça le sujet.
Ben non, parce qu'ils vont, enfin non, oui et non, puisque en fin de compte,
petits vos enfants,
l'idée,
non là je peux pas leur faire le coup.
Mais l'idée l'intérêt, c'est que la SCI où vous êtes avec vos enfants emprunte la totalité si possible,
voilà.
Ce qui fait que vous repartez avec des intérêts d'emprunt à déduire de vos loyers, etc. Donc fiscalement aussi, c'est intéressant.
Alors attention, tout ce dont on parle est tout à fait légal, etc.
Absolument.
Il y a quelques quand même points d'attention principaux.
Oui.
Notamment, il faut une vraie justification patrimoniale. Exemple.
Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas, vous êtes propriétaire d'un bien, vous montez une SCI avec votre beau-frère, vous avez 90%, vous montez une SCI, vous rachetez le bien pour repartir avec des intérêts d'emprunt plein pot, vous vous faites retoquer.
Ah bon, pourquoi?
C'est la notion... Par l'administration fiscale, puisque c'est depuis la doctrine...
Dénoncé par votre haute beau-frère.
Depuis la doctrine que vous connaissez sur le mini-abus de droit, on n'a pas le droit de faire des montages à but uniquement fiscaux.
Bah ouais, mais donc, là, en l'occurrence...
Non, parce que là, il y a une logique avec vos enfants, etc. Si vous êtes minoritaire par la suite, il y a une logique patrimoniale, il y a une logique de transmission. Donc, voilà.
La logique de transmission, je pourrais leur en faire don avec la fiscalité qui va avec.
Bien sûr. Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Voilà la logique patrimoniale.
Oui, mais
non,
bon,
je sais pas.
Non, mais c'est. Enfin, ça, encore une fois, ce sont des montages qui sont fréquents.
Oui, non, mais d'accord, mais il y a quand même un peu d'hypocrisie. Il y a quand même un peu.
Robespierre est
mais
de
non,
retour.
Pas du tout.
Marie
mais il
a
même...
mis sa tenue.
C'est
de,
pas vrai, mais il y a quand même un peu d'hypocrisie. C'est, reconnaissons qu'il s'agit là d'un dispositif avant tout fiscal.
Non, et patrimonial, Marie. Aussi patrimonial. Surtout patrimonial, Marie.
Ah, bah, patrimonial, il y aurait pu avoir don, mais forcément, la fiscalité au-delà de 100 000 euros, elle est prohibitive. Donc, on crée ce type.
Par parent, par
Là, c'était une logique patrimoniale et non fiscale. Là, on est plutôt sur une logique.
Ah, écoutez, les montants, enfin, la fiscalité française est quand même ce qu'elle est. Elle est quand même lourde.
C'est
très
pas,
lourde.
Je n'ai pas dit qu'elle ne l'était pas. Hein. J'ai juste dit qu'il y avait une forme d'hypocrisie.
Mais effectivement, il y a deux, trois encore petits montages sur lesquels on peut aller, où on peut faire des choses intéressantes et légales. Mais effectivement, attention. C'est réglementé, il faut être bien accompagné, il faut tenir une vraie comptabilité sur la SCI.
Alors aussi, ça
c'est important.
Qu'est-ce que ça veut dire une vraie comptabilité?
C'est-à-dire qu'il faut faire notamment les assemblées générales tous les ans.
Avec soi-même?
Ce que ne font... non, avec ses enfants. C'est ça.
Oui, mais bon... Hein.
Ce que ne font quasiment jamais les SCI entre nous. Hein.
Attention.
Alors,
on monte la SCI, puis les assemblées générales, voilà. Donc il faut être, encore une fois, plutôt minoritaire, il faut qu'il y ait une logique de transmission, il faut tenir une vraie comptabilité des assemblées générales, etc., de la SCI, publier ses comptes, etc., il faut que ce soit clean.
C'est vérifié, ça, ou pas, Stéphane?
Ah oui, mais ça, ce sont des montages très fréquents. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'administration fiscale vérifie.
Oui.
Parce qu'on
y a quand même des contrôles.
Dénoncé parce que l'administration fiscale monitore les.
Non, c'est dans le. Non. Mais c'est. Enfin, après, c'est effectivement dans le cadre des contrôles aléatoires, y compris. Hein.
Ouais.
Voilà, vous avez. Puis bon, dès qu'il y a une vente, etc., on peut regarder qui achète, pourquoi, etc. Donc ça passe par les hypothèques, les services de l'État. Donc ils peuvent se demander, tiens, pourquoi est-ce que ce bien qui n'avait plus d'intérêt d'emprunt se retrouve à nouveau avec des intérêts d'emprunt à déduire, etc. Donc vous pouvez attirer l'attention. Donc il faut que le montage soit effectivement clean et soit bien fait.
En parlant d'orthodoxie, Marie, puisque Marie est habillée en blanc et noir, comme un peu une mormone. Payer le juste prix du bien.
Oui.
Comment on l'estime, ce juste prix?
Oui, il faut un juste prix du bien. Il faut pas que l'État soit lésé par un manque, par exemple, sur les frais de mutation. Hein, par exemple, si vous voulez avantager vos enfants, un bien qui vaut 500 000, si vous le vendez 300 000, vous vous faites aligner.
Ça paraît assez évident quand même.
Tout à fait. Donc ça, vous faites une estimation, demandez à un agent immobilier une estimation, vous faites une estimation avec les outils d'estimation qui sont à peu près fiables. Donc il faut payer le vrai prix. Il ne faut pas qu'il y ait un prix dissimulé pour avantager notamment vos héritiers, etc. Il faut que ce soit le vrai prix. Et surtout, attention, quand vous faites une vente qu'on appelle une vente à vil prix, quand vous vendez très nettement en dessous du prix, vous avez toujours le risque, et ça, faut faire très attention, de la préemption de la ville. Parce que vous voulez faire un cadeau, par exemple, à vos enfants en disant, bon, ce qui vaut 500, je le vends 300.
Oui.
Mais ça passe, vous avez, pour chaque vente, vous avez une déclaration d'intention d'aliéner. C'est-à-dire, ça passe par le service de la mairie. Et si vous êtes à Paris, Madame Hidalgo, elle va se dire, tiens, ce bel appartement à 500 000, il se vend 300 000, je prends.
Moi, j'ai l'intention de vendre très cher à mes enfants.
Donc, il faut...
C'est quoi l'inverse? Est-ce que ça aussi, c'est checké?
Donc, il faut faire attention. Il faut vendre au prix. Mais de la même façon, pour se louer à soi-même des bureaux, etc., il faut louer au prix. Il ne faut pas louer ni en dessous, parce que ce serait favoriser votre entreprise, etc., ni au-dessus, oui. Parce que là, ce serait vous favoriser en donnant un loyer bien au-dessus du marché, etc. Donc là aussi, il peut y avoir des risques. Il faut louer au prix, il faut vendre au prix, et que le montage soit clean, bien fait, monté par des pros. Et là... Bah, a priori, enfin moi j'ai pas vu effectivement de quand le montage était bien fait, j'ai pas vu de gens qui se faisaient retoquer, contrôler oui. Mais retoquer, non.
Non, mais c'est ça le sujet en réalité de tout ce que vous nous dites, Stéphane. C'est que ce genre de montage, de toute façon, il faut être très accompagné quand même.
Oui, c'est sûr. On fait pas ça comme ça, sur un coin de table, sur une bonne idée, en écoutant des quartiers sur BFM Business, en disant tiens, je vais me racheter mon bien, etc. Non, il faut être accompagné, c'est sûr.
Commerciaux, bureaux et on l'entend, même logement.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
C'était une piste. Si vous étiez votre propre locataire et si vous étiez votre propre acheteur, Marie, Thierry Robespierre, le mot de la fin.
Bah moi je pourrais jamais acheter, donc je resterai locataire d'un propriétaire.
Ça, on va faire une émission SOS,
oui, une cagnotte
oui, une spéciale.
Voilà, c'est
SOS,
ça.
Merci Stéphane pour ce regard, cette idée alternative, et néanmoins très courante. Vous êtes profession libérale, c'est ce que vous avez mis en place, vous voulez nous raconter pourquoi vous avez fait ça et que ça marche bien ou que ça marche moyennement. Vous pouvez nous écrire. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr. Des messages, nous en avons reçu quelques-uns concernant le PEA, notamment Michel qui nous écrit sur la possibilité d'une flat tax sur le PEA, ou encore Guy qui nous demande des précisions. Nous allons vous répondre avec Christian Fontaine qui se prépare pour rentrer en studio dans quelques minutes pour réfléchir à pourquoi le PEA est aussi attrayant et puis surtout, comment peut-on investir dans l'IA avec son PEA? On va répondre à Mathieu. C'est tout de suite après une petite pub.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et utiliser au mieux votre plan épargne action, le fameux PEA qui est si attrayant, en tout cas qui vous inspire beaucoup de questions. Et pour y répondre partiellement, au moins Christian Fontaine est de nouveau avec nous. Bonjour cher Christian.
Bonjour à toutes
Rebonjour.
Et à tous.
Vous êtes déjà avec nous pour la partie actu. Vous êtes le directeur délégué de la rédaction du Revenu. Bon, faut-il encore présenter ce PEA qui nous permet à nous, individus et puis ménages, de fabriquer notre petite épargne boursière?
Ah, il faut, oui, bien sûr, il faut en reparler. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bourse progresse depuis le début de l'année, fortement, 6-7% de hausse pour le CAC 40 et pour bien plus pour un certain nombre d'investisseurs et d'investisseuses actifs. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, on a tendance à se focusser, si vous me permettez l'expression, sur le choix des valeurs, ce qui peut tout à fait être compréhensible. Et donc, il y a deux sujets qui me sont chers, qu'on aborde rarement. Le premier, c'est les frais. Je vous remercie de ne pas relevé. Et le deuxième, c'est la fiscalité, les impôts. Donc, à quoi ça sert, je dirais, de gagner de l'argent en bourse si c'est pour que l'essentiel des gains poche tombe dans les poches de l'administration fiscale, même si quelque part, ça nous revient aussi sous forme de service public. Mais il n'empêche que c'est quand même intéressant d'optimiser ces impôts. Et vous le savez, vous le répétez souvent sur votre antenne et Revenu aussi, c'est que en France, la fiscalité est quand même très élevée. Et donc, le conseil, c'est que pour se construire une petite épargne boursière, mais il faut investir via le plan d'épargne en action. Vous avez raison.
En franchise d'impôt, donc. Alors, on a pas mal de questions d'auditeurs, mais on va faire un petit peu de pédagogie quand même. D'abord, le PEA, ça n'est pas non plus le placement parfait.
Non, alors bien sûr, c'est pas le placement parfait, c'est quand même un placement qui permet de ne payer que 17,2% de prélèvements sociaux sur ses gains. Donc ça, c'est quand même pas mal, plus que pas mal. Surtout, l'avantage du PEA, c'est que vous pouvez multiplier les opérations en bourse, les achats vendus, vous pouvez les encaissements de dividendes autant que vous voulez. Vous ne payez pas, vous ne passez pas par la case impôt ou prélèvements sociaux à chaque fois que vous réalisez une opération. C'est uniquement lorsque vous voulez retirer votre argent de cette enveloppe fiscale pour en profiter. Et ça, c'est absolument essentiel. Lorsque vous gérez votre argent sur un compte titre ordinaire, vous vendez un titre, gling, 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 en gain, vous passez par la case impôt. Dans le cadre du PEA, uniquement, donc vous choisissez le moment où vous êtes imposé.
C'est-à-dire que cet argent, ces liquidités, elles restent dans la poche du PEA. C'est ça que vous voulez nous dire.
Voilà, tout à fait.
Excellente transition vers la question de Mathieu, qui nous a écrit hier. Il possède un PEA depuis bientôt 5 ans. Il a justement des liquidités dans cette petite poche liquidité de son PEA. Et il souhaite miser, il souhaite investir sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez quelques conseils à lui apporter, cher Christian ?
Alors, lorsqu'on pense intelligence artificielle, on pense forcément action européenne. Alors là, vous le savez, le plan d'épargne en action, bah, vous avez un avantage fiscal. Et en contrepartie, en fait, vous ne pouvez investir que dans des titres de sociétés qui ont leur siège dans l'un des 27 pays de l'Union européenne, plus le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Donc on était un peu loin des États-Unis. Donc si vous voulez investir en direct dans Nvidia via votre PEA, ce n'est pas possible. Mais il est possible d'investir en actions européennes via des fonds d'investissement. Alors quelle est la magie entre guillemets ? Eh ben c'est très simple, c'est que ce sont des fonds qui respectent les critères d'éligibilité au PEA, donc ils sont bien investis à hauteur de 75% minimum, donc alors en actions par exemple du CAC 40. Et ensuite la performance du portefeuille est échangée contre la performance d'un indice américain, par exemple le Standard & Poor's 500, qui vous savez est exposé à hauteur de 30% en valeur de la tech, donc notamment en valeur de l'intelligence artificielle. Donc, la solution pour votre auditeur, très simple en fait, et sans doute aussi sur le plan tactique, sur le plan conjoncturel, la solution la plus habile, puisque quand même les valeurs de l'intelligence artificielle sont très chères, ça consiste à diluer un tout petit peu le risque en investissant sur un fonds tech. Donc là, il y a deux options, soit investir via un ETF PEA qui réplique la performance de l'indice Nasdaq. Il existe ce type de produit chez Lyxor. Et puis vous avez aussi chez Amundi, Lyxor et BNP des ETF qui sont éligibles au PEA et qui répliquent l'indice Standard & Poor's 500. Personnellement, dans la conjoncture actuelle, compte tenu des niveaux des marchés, je préférerais investir sur un ETF qui réplique donc alors le Standard & Poor's 500. Donc comme ça, votre auditeur sera exposé à la thématique de l'intelligence artificielle, mais pas que.
Voilà, ces ETF qui permettent d'investir sur le S&P 500. On a pas mal de questions d'auditeurs très d'actualité, notamment celle de Michel, un de nos Michel, Michel G, qu'on salue. Il nous écrit, il a écouté l'émission depuis le début, avec l'augmentation du déficit public, n'y a-t-il pas un risque de voir la flat tax arriver sur le PEA ?
Alors, j'y crois pas. Mais ça ne veut pas dire forcément que l'ensemble des prélèvements sur le PEA ne va pas augmenter. En fait, la flat tax, donc c'est l'impôt le PFU, en fait le prélèvement forfaitaire unique, à 30% auquel sont soumis peu ou prou tous les revenus donc et plus-values de vos placements, sauf au sein de l'enveloppe PEA. Non, par contre, ce qui peut se passer au sein de l'enveloppe PEA, on en parle peu en ce moment, c'est les prélèvements sociaux, les fameux 17,2% au sein du PEA. Ça pèse lourd et ça, rien ne garantit que ce taux, hein, vous savez, historiquement, c'était la fameuse CSG, créée au début des années 90 de mémoire, ça devait être 0,5 ou 1% et puis le taux n'a pas cessé d'augmenter. Aujourd'hui, donc, ces prélèvements sociaux, c'est l'addition de différents prélèvements. Ce taux de 17,2 pourrait éventuellement augmenter. Il n'empêche que même s'il augmentait, il n'y a eu aucune information dans ce sens. Oui. C'est purement de la conjecture. Le gouvernement reste sur sa politique, donc alors de ne pas augmenter les impôts. Ce qui ne veut pas dire que certaines niches fiscales ne vont pas disparaître. Donc alors, ce qui ne veut pas dire que certains avantages fiscaux vont être reniés. Dans le cadre du PEA, on est vraiment au cœur de la machine. La volonté, donc alors, d'Emmanuel Macron de booster, donc alors, l'investissement dans l'épargne productive en bourse. Donc ça serait quand même très étonnant que la fiscalité sur tous les placements qui avaient été allégés au 1er janvier 2018, puisque avant, en fin de compte, les revenus du capital étaient taxés comme le travail, et depuis le 1er janvier 2018, ils sont taxés au taux de la flat tax. Donc ça serait revenir quand même sur une réforme fiscale majeure du premier quinquennat Macron. Donc j'y crois pas trop, mais éventuellement toujours une hausse des prélèvements sociaux possibles, notamment pour le PEA.
Voilà, loin de nous de colporter des rumeurs. C'est une question d'auditeur à laquelle on répond. Voilà, pour l'instant, ça n'est pas au programme. Bon, il y a quand même quelques conseils que vous pouvez donner, fort de votre casquette du revenu, pour ceux et celles qui ont déjà un PEA.
Alors, pour ceux et celles qui ont déjà un PEA, en fait, c'est de mondialiser le PEA. Vous savez, le revenu, on va souvent chez les abonnés, chez les lecteurs, et on met à plat un peu l'ensemble de leur situation patrimoniale, et on regarde notamment ligne par ligne leur PEA. Et que constate-t-on ? C'est qu'il est très souvent franco-français. Ça, c'est pas, un biais national. C'est pour les Anglais sont majoritairement investis dans des titres britanniques, les Allemands dans les titres allemands, les Américains dans les titres américains. Ce qui est une certaine logique. On investit dans ce qu'on connaît parce qu'on pense que ce qu'on connaît va davantage progresser. Malheureux que ce qui est coté à l'étranger. Voilà. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et depuis une dizaine d'années, ça vous a pas échappé. Effectivement, les actions américaines donc, affichent des performances bien supérieures aux actions françaises. Donc, il s'agit pas de faire du French bashing, mais on peut donc leur aimer, donc leur soutenir nos champions nationaux tout en s'ouvrant à l'international. Et donc, le conseil pour ceux et celles qui ont un PEA, c'est de mondialiser leur PEA. Donc, en mondialiser déjà, je dirais, en investissant dans des titres donc cotés en Allemagne, à Bruxelles, en Italie, en Espagne. Et puis, pourquoi pas, donc, alors, pour les portefeuilles relativement importants, oser donc, alors, des fonds un petit peu complexes donc, qui vont échanger la performance d'un portefeuille éligible au PEA donc, alors, et investi en actions européennes contre la performance d'un indice américain. Donc le conseil pour ceux et celles qui ont un PEA, mondialisez votre PEA.
Mondialisez-le. Une question de Guy qui nous suit et qu'on salue, qui nous évoque une situation suite à un décès. La banque du défunt me valorise les titres au jour de mon ordre de transfert. Est-ce que c'est correct? Parce que c'est vrai, souvent on pense que la valorisation, eh bien, elle s'apprécie soit au jour du décès, soit une moyenne sur 30 jours.
Alors, ça dépend en fait de quoi parle votre auditeur. En fait, pour le calcul des droits de succession, effectivement, la base imposable pour le PEA, les titres qui sont dans le PEA, ça correspond à la valeur du titre le jour du décès ou, si c'est plus intéressant pour les héritiers, à la moyenne donc, lors des cours des 30 derniers jours. Voilà, oui. Ça, il a raison
précédent
là-dessus.
Précédent le décès. Oui.
Voilà, précédent le décès. Ça, il a raison. Après ça, le transfert, je dirais, des titres, ben, il s'effectue donc, au cours des titres le jour du transfert. Attention, hein, il ne faut pas confondre la valeur des titres le jour du transfert avec la valeur des titres qui sert de base donc, pour le calcul des droits de succession. Hein. Vous pouvez très très bien payer des droits de succession sur 100 parce que les titres ils valent 100 le jour du décès. Et puis, le jour du transfert, souvent parfois 6 mois après, les titres qui valaient 100 le jour du décès peuvent valoir 80 ou peuvent valoir 120. Et donc, en plus, même une petite subtilité fiscale à savoir, c'est que si les titres ont progresser entre le jour du décès et le jour du transfert, eh ben, les héritiers vont être amenés à payer des droits de la taxe sur la plus-value. À l'inverse, donc, alors, si les valeurs des titres le jour du transfert est inférieure à la valeur des titres le jour du décès, il peut y avoir une moins-value utilisable sur le plan fiscal. Voilà, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle sous le plan des droits de succession ou est-ce qu'on parle sur le plan du prix donc, alors, des titres le jour du transfert?
Voilà, précision pour notre auditeur. Un autre auditeur nous demande comment calculer les prélèvements fiscaux en cas de sortie partielle du PEA. On a le sentiment que c'est très opaque.
Alors, c'est pour un PEA de plus de 5 ans, il n'y a pas de prélèvements fiscaux, c'est que des prélèvements sociaux. Alors oui, c'est vrai que c'est très compliqué. La question type qu'on a aussi très souvent revenu, c'est j'ai vendu un titre en perte et dans la foulée de la cession de ce titre en perte, j'effectue un retrait. Et ma banque me prélève des prélèvements sociaux. Y a-t-il une erreur de calcul? Alors la plupart du temps, il n'y a pas d'erreur de calcul. En fait, c'est parce qu'il faut bien comprendre comment sont calculés ces prélèvements sociaux. En fait, lorsque vous effectuez un retrait d'un PEA, vous retirez à la fois un tout petit peu de capital, le montant de vos versements, plus une quote-part de vos gains. Et les prélèvements sociaux ben, ne sont calculés que sur la part des gains que vous retirez. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui est exact. C'est le taux qui s'applique aux gains réalisés sur un PEA depuis le 1er janvier 2018. Sauf que ce taux de 17,2% ne s'applique pas sur le montant total de votre retrait, mais uniquement sur la part de gain. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais la bonne nouvelle à retenir, c'est que il en résulte donc alors un prélèvement inférieur au 17,2. Par contre, c'est vrai que c'est excessivement, les modalités de taxation sont très complexes. De mémoire, ces modalités de taxation, ça tient sur 4 pages de formules mathématiques, donc c'est d'une complexité inouïe. Voilà. Donc c'est très difficile de le recalculer.
Christian, un conseil pour ceux et celles qui nous écoutent, qui n'ont pas ou pas encore de PEA.
Non, mais ça, je pense que vous pouvez faire le conseil à ma place. C'est bien sûr d'ouvrir un PEA. Alors, la question, on ouvre, c'est la question, c'est où, en fait, hein, on n'ouvre pas un PEA dans son supermarché, on n'achète pas donc, alors, des titres, non, on n'investit pas dans des titres dans son supermarché. Il faut passer par l'intermédiaire d'un établissement financier. Mmh, mmh, mmh. Vous pouvez ouvrir donc, votre PEA auprès donc, de votre banque à réseau. Le conseil du revenu, c'est plutôt de passer par un établissement 100% en ligne. Mais pourquoi ? Parce que les, toutes les, voilà, les frais, vous avez raison, les toutes les études qui ont été menées là-dessus montrent que les frais prélevés sont 2 à 3 fois inférieurs, notamment les frais de courtage. Lorsque vous achetez ou vendez un titre, vous passez par la case frais. Et l'avantage des établissements 100% en ligne, d'ailleurs souvent filiales d'un grand réseau bancaire, bah les frais de courtage sont limités à 0,1, 0,15, 0,20% sur chaque opération d'achat et de vente. Donc, ouvrir un PEA auprès d'une banque 100% en ligne reste un point clé, le choix du package tarifaire. Hein. Vous savez, c'est un peu comme un abonnement à la de téléphonie mobile ou un abonnement à Internet.
Il ne faut pas se tromper sur les options.
Voilà, il ne faut pas se tromper sur le package. Bon, le package, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des forfaits tarifaires qui conviennent bien aux débutants, pour des petits ordres. Il y a des forfaits tarifaires qui conviennent bien aux investisseurs, je dirais, déjà plus aisés, pour des montants plus important. Il y a des packages tarifaires qui sont adaptés si vous faites quelques ordres par mois, d'autres si vous faites quelques ordres par jour. Donc il faut cette capacité en fait à vous projeter dans l'avenir. Il faut anticiper quel sera le montant moyen de vos ordres d'ici 1 ou 2 ans, l'encours moyen de votre PEA. Est-ce que vous allez travailler des titres en direct, des titres français, des titres européens ? Est-ce que vous allez investir donc par l'intermédiaire d'ETF ? Donc alors de fonds d'investissement, c'est autant de questions qui convient de se poser. C'est pas si simple, mais parce que ça va vous permettre en fait d'optimiser votre tarification, sachant bien sûr que lorsque vous ne ferez pas un ordre qui sera un peu dans le cœur de cible du package donc que vous avez souscrit, eh ben vous allez être pénalisé. Donc voilà, ça c'est un point très important, mais pas de panique. Hein, de toute façon, vous pourrez aussi changer de forfait tarifaire, mais simplement cela peut entraîner des coûts.
Voilà, quelques bons conseils pour mieux gérer ou mieux envisager votre plan d'épargne action. Merci Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Merci à nos auditeurs et auditrices Mathieu, Guy, Michel et Jérémy qui vient de nous écrire et qui nous dit qu'il faudrait prendre modèle sur ce qu'on fait au Canada avec le CELI, le compte épargne libre d'impôts. Vous connaissez, Christian ?
Alors, je ne connais pas ça. Je sais que la fiscalité au Canada est particulièrement légère, notamment, il me semble qu'il n'y a pas de droit de donation ni de droit de succession. Par contre, je ne connaissais pas cette particularité pour la taxation des titres.
Merci, Jérémy. On va regarder de plus près ce CELI et voir s'il est intéressant. Vous restez avec nous. On va finir cette émission en parlant d'investissement dans les coins. Les mêmes coins, vous savez, ces jetons qui eux aussi surfent sur les performances assez incroyables depuis quelques semaines. Décryptage avec Enzo Allo.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans des coins, des mêmes coins. On va parler franglais, pardon, pour les puristes qui nous suivent. Bonjour Enzo Allo.
Bonjour Lorraine.
Président de CryptoPatrimoine.fr. Certaines crypto-monnaies montrent des performances assez incroyables depuis quelques temps. Pour ceux et celles qui considèrent que les cryptos sont un actif à part entière, nous allons zoomer sur ce qu'on appelle les tokens, les coins, et en particulier les mêmes coins. Expliquez-nous, racontez-nous.
En fait, simplement, ce sont des tokens qui ont en fait pour fondation simplement comme origine, les mêmes d'Internet, et donc toutes ces communautés en ligne qui se sont, on va dire, déjà rassemblées à l'origine sur Internet avec des façons de penser communes ou simplement des images. Voilà, ça peut paraître un petit peu stupide. Généralement, plus ça l'est, plus ça marche. Et donc, on a donc cette nouvelle... Et c'est même maintenant un sous-secteur hein, de la blockchain qui sont donc les mêmes coins. Et il y en a pour l'équivalent maintenant de pratiquement 60 milliards de dollars de capitalisation boursière.
60 milliards de capitalisation boursière. Vous avez quand même prononcé l'adjectif stupide.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez articuler une réflexion sur le ou les projets qu'il y a derrière certaines de ces crypto-actifs, certains de ces crypto-actifs, et pourquoi, bon, on en parle et c'est important, selon vous?
Alors déjà, peut-être pour dire, quand je dis stupide, c'est pas péjoratif, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais c'est une manière un petit peu d'investir des puristes, on va dire, de cet écosystème qui, à l'origine, est un marché de particuliers qui ne se prend pas au sérieux. Mmh. C'est aussi un des socles de cette base, contrairement à la finance traditionnelle qui est très sérieuse. Et donc, pour continuer sur un peu l'idée, on peut être très sérieux dans la bêtise. Et donc, prendre cette blague et pris une proportion un petit peu mondiale, avec Dogecoin typiquement, qui est la première crypto-monnaie à être apparue en 2013.
Dogecoin, c'est avec un chien dessus, mais attention, c'est pas la seule avec un chien.
Et non, il y a le Shiba Inu. Alors, Dogecoin, elle, c'est un dérivé de Bitcoin qui a été développé à partir du code originel du Bitcoin. Shiba Inu, lui, a été développé sur Ethereum. Et pour la petite histoire, en fait, il y a à sa création pratiquement un quart de l'offre en circulation qui a été brûlée par Vitalik Buterin. Donc, ce qui crée, en fin de compte, chacun de ces mêmes ont une petite histoire derrière eux.
Rappelez-nous qui est Vitalik Buterin.
Vitalik Buterin, c'est le créateur, pardon, de Ethereum. Enfin, un des créateurs.
Voilà, créé puis brûlé. Bon, on le voit, il y a un petit peu d'originalité dans la pensée financière de ces coins. J'ai moi-même du mal à articuler une question bien pesée. Vous nous avez rappelé les encours dont on parle, les montants. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que ce sont des réels supports d'investissement?
Non. Alors, je le dis en étant professionnel, alors même si au niveau personnel, j'en ai en portefeuille, parce que je pense avoir appartenu à un moment à cette communauté, mais c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de projet utilitaire derrière, très clairement. Il faut être assez clair là-dessus. C'est vraiment un moyen de rassembler différentes communautés d'Internet. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, en réalité. Et en fait, en tant qu'investisseur, on va parier un petit peu sur la cupidité et, on va dire, la stupidité un petit peu de cet écosystème en ne se prenant pas au sérieux et en se disant, en fait, allez, je mets 50 euros, je mets 100 euros là-dedans pour la blague. Et en fait, à une échelle mondiale, en fait, ça en devient justement des milliards.
Les plus grosses market capitalisation, ce sont le Dogecoin, ce sont le Shiba Inu, mais on parle aussi de Pepecoin. Pour ceux qui nous suivent en image, est-ce que c'est une grenouille? Est-ce que c'est un cornichon? Je ne sais pas. C'est un individu vert avec une casquette rouge.
Oui.
Racontez-nous l'histoire de Pepecoin.
Pepecoin, c'est une histoire assez rocambolesque qui, à l'origine, a été créée par un dessinateur qui s'appelle Matt Fury dans les années 2005, qui est un livre pour enfants, qui, au fil du temps, a été repris. Alors voilà, cette petite grenouille qui a une air un petit peu parfois triste, un petit peu narquois, qui a beaucoup plu à des communautés internet qui l'ont autant et à tel point détourné qu'elle est aujourd'hui listée dans la, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, un petit peu les listes ostentatoires américaines, donc c'est la DFA, je ne sais plus.
L'Anti-Defamation League.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous.
Et en fait, c'est tout simplement les sigles qui sont, on va dire, bannis, comme par exemple la croix gammée. Donc en fait, Pépé, effectivement, est au même statut. Alors, parce que, on va dire que c'est une communauté qui, dans ses extrêmes, malheureusement, a soutenu en grande partie Trump et a joué pour son élection présidentielle. Il y a énormément de choses qui se passent pour des communautés Internet qui sévissent, entre guillemets, dans l'ombre. On est vraiment dans le côté extrême d'Internet et qui, par le fait de poster énormément de messages, parfois un petit peu décriés sur Internet, à force de les voir, on s'habitue à voir ces images, parfois, qui peuvent être malheureusement racistes, ce genre de choses. Mais en fait, à force d'inonder les réseaux sociaux de ce genre d'images, on normalise un petit peu tout ça. Et ça lui a valu d'être donc banni au titre de la croix gammée, malheureusement. Il y a eu des choses qui ont été faites, on va dire, de manière tout à fait... C'est-à-dire que, par exemple, ça a été aussi utilisé pour lever des fonds à Singapour. C'est-à-dire que c'est vraiment une minorité de cet écosystème qui a malheureusement exploité ça à mauvais escient. Et la plupart des gens, je pense, investissent dans PP sans savoir exactement ce qui s'est passé derrière tout ça. Mais c'est, je pense, la plus grosse des communautés sur Internet aujourd'hui.
Voilà, on parle de communautés financières, de communautés Internet qui vivent un petit peu en autonomie, avec des codes qui parfois se popularisent, se démocratisent, sans qu'on se rende compte forcément de toute la culture derrière qu'il y a. Ouais. Amaury de Tonquédec nous a rejoint. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Vous êtes notre monsieur crypto. Votre regard sur ces memecoins et peut-être sur les performances qu'elles affichent depuis quelques semaines, indexées, j'ai envie de dire, sur les performances du Bitcoin.
Sillage
des performances du Bitcoin.
Voilà, c'est ça. C'est des cryptos, on en parlait avec Enzo juste avant de rentrer en plateau. C'est vrai que c'est des cryptos extrêmement spéculatives. Alors bon, tout investissement est spéculatif, mais c'est vrai que c'est des cryptos, pour la plupart d'entre elles, il n'y a pas réellement de projet derrière, c'est plus une hype, où là on va faire un pari, voilà, c'est un peu du casino, quand on va dire tiens, la petite tête de chien, la petite tête de grenouille, la tête de sanglier, ce que vous voulez, eh ben on pense que ça va peut-être décoller, et derrière on regarde pas forcément les fondamentaux. Et effectivement, on peut avoir des performances assez incroyables avec ces mêmes coins, hein. On peut avoir des plus, je sais pas, Enzo,
justement tout à l'heure. Shiba Inu sur 4 ans, c'est plus de 2 millions de performances, et sur un mois c'est 200% de performance. Dogecoin depuis 2013, 32 000% de performance, avec sur le mois dernier 112% de performance. EPP, c'est 14 000% depuis mai 2023, avec sur le dernier mois 487% de performance.
Donc ouais.
Voilà, c'est peut-être réservé pour le haut de votre pyramide patrimoniale. Vous avez un petit peu de cash, un peu de liquidité, et vous avez envie de prendre du risque. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces cryptos, ces meme coins qui sont un domaine d'investissement pour tous ceux et celles qui pensent que les cryptos sont un actif, sont des actifs. Merci beaucoup Enzo Allo, président de CryptoPatrimoine.fr. On peut bien sûr continuer à se documenter sur tous les sujets crypto, en plus de regarder ou d'écouter tous les jours Amaury de Tonquédec dans BFM Crypto, le club, à 15h, 21h30 et puis n'importe quelle heure en podcast. Le programme de l'émission du jour, Amaury.
Les cryptos, on peut y investir, mais on peut aussi y travailler. Donc, on va parler des métiers de la blockchain, du Web3, avec le fondateur d'une école de la blockchain. Et on réagira aussi à la déclaration de la première ministre de l'Islande qui attaque le Bitcoin et le mining. Alors, pourtant, c'est un pays dans lequel il y en a beaucoup. On verra ça tout à l'heure à 15h.
D'ici là, dans 5 minutes, Sandra Gandouin prend les manettes avec vous. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Le programme de l'émission du jour.
On va parler de comment former ses managers, de comment recruter grâce à l'IA, d'économie circulaire ou encore de rupture conventionnelle. Tous les problèmes que vous rencontrez en tant que patron indépendant salarié dans la vie en entreprise, eh bien vous nous posez vos questions très, très simplement et nos experts y répondent pendant toute une heure dans un instant. Experts juridiques, experts de recrutement, décarbonation, tous les sujets sont abordés. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr et puis en live aussi sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est la fin de Tout pour investir. Merci à toutes et à tous pour vos messages. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route ou vous voulez réécouter nos experts, par exemple Enzo Allo sur ces mêmes coins, pas de panique. Toutes les séquences sont à retrouver en podcast et en replay sur le site ou l'application BFM Business d'ici quelques minutes. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On parlera d'un sujet géopolitique, investissement dans le pétrole et l'uranium. On fera aussi un topo sur les matières premières, argent, cuivre, mais aussi carbonate de lithium. Ça vous concerne en tant qu'investisseur. Et on réfléchira à comment investir dans la souveraineté européenne. Où mettre son argent? Pourquoi envisager la souveraineté européenne comme un endroit d'investissement? C'est le programme de Tout pour investir. Demain, on se quitte avec le Bitcoin qui se traite autour de 70 968 points. Vous le voyez, largement sorti de sa zone de correction, le Bitcoin, à l'assaut peut-être des 71 ou 72 000 dollars dans les prochaines heures. À demain!
Tout pour investir sur BFM Business.